Voilà, donc c'est ce que je disais avant que vous arriviez tous. On a une réunion de délégués, donc ils ont fait remonter vos réactions, votre sentiment par rapport au cours. Et ben, profitons de ce qu'on. Donc j'ai bien entendu. Après, je ne sais pas ce qu'il arriverait à être un peu plus peut-être fluide ou
Laisser là.
moins dense dans tout ce que je dis. Mais profitons de ce qu'on est moins nombreux pour ne pas hésiter à intervenir et à poser les questions en cours de route ou à ralentir le débit ou le s'il faut, et s'il faut qu'on s'arrête sur un point ou l'autre, très très bien. Il y a pas de souci. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez besoin. D'autant plus que bah, c'est l'occasion de mettre au clair ce qui est peut-être encore un peu confus puisqu'on atteint, on a quand même maintenant le dernier chapitre de notre cours, un chapitre qui va regrouper les deux dernières séances. Et vous avez vu, bonjour David, et vous voyez, il s'appelle l'espérance chrétienne. C'est un chapitre où on va se tourner en fait vers l'horizon ultime de notre vie, vers l'au-delà de la mort. Donc évidemment, une étape un peu mystérieuse. Mais la particularité, comme chrétien, c'est que nous, cette étape, on l'envisage dans l'espérance, d'où le titre du cours. Et même si les réalités dont on va parler peuvent paraître parfois un peu inquiétantes, quand on parle fin du monde, jugement, peut-être enfer, on se dit oula, mais je voudrais vous rappeler une chose en préambule, c'est que ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que notre relation à Dieu, elle se déploie toujours sous le signe d'un amour inconditionnel. Le propre de l'anthropologie chrétienne, c'est de toujours penser l'homme dans sa relation à Dieu. C'est sa clé. Eh bien, disons-nous et n'oublions pas que cette relation, elle est bonne. Isaïe, au chapitre 43, a cette belle phrase: Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Une parole comme celle-là, il y en a des dizaines et des dizaines dans la Bible. Eh bien, il faut le garder à l'esprit et se dire que des paroles comme celles-là, il n'y a rien qui ne peut venir les démentir. Parce que Dieu ne varie pas dans son amour. Il aime et il ne change pas d'avis. Il est fidèle, il est solide. C'est ça sa caractéristique, c'est ça qui fait sa force. Alors, de notre point de vue à nous, la relation à Dieu, elle n'est pas toujours simple. Parce que notre vie est semée d'embûches, parce qu'elle est marquée par le péché. Mais rappelons-nous que Dieu nous aime et que cette vie, elle est appelée à une plénitude. Elle est promise à ce qu'on appelle un salut. Un salut qui n'est rien d'autre, ce qu'on a dit la dernière fois, que le partage de la vie divine. Nous aurons part à la vie de Dieu. Et c'est ce qu'on a, les deux dernières séances, c'est ce qu'on a essayé d'approfondir autour de cette idée d'auto-communication de Dieu, d'un Dieu qui va nous faire partager cette vie. On l'a fait sous différentes facettes. On a parlé d'un pardon donné, un pardon qui va jusqu'au bout. On a parlé d'entrer dans une vie filiale. On a parlé de divinisation, on a parlé d'une vie nouvelle qui nous est donnée, qui est une vie dans l'esprit. Tout ça, c'est toujours différentes manières, mais qui ont une même visée, de dire ce Dieu qui cherche à se donner à nous. Donc maintenant, le point suivant, le pas suivant qu'on va faire, c'est cette affirmation du salut. Ben, il faut la situer dans le mouvement de notre propre vie personnelle et collective. Comment est-ce que ça va se jouer concrètement pour nous? Dans le langage de la théologie, c'est toute la question de l'eschatologie. Alors, je vais partager l'écran. C'est celui-là. Partager. Voilà, je vais faire comme ça. Attendez, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Bonjour aux nouveaux arrivants, parce que je vois qu'il y en a qui arrivent là. Alors, c'est toute la question de l'eschatologie. On retrouve le fameux logos, hein, christologie, anthropologie, le discours, la réflexion. Et puis, eschatos en dernier, ça veut dire grec. Au pluriel, les eschata, les choses dernières, c'est-à-dire tout ce qui arrive à la fin. Et donc, l'eschatologie, c'est le discours de la foi sur ces choses de la fin vers lesquelles on avance, et sont à la fois la fin de notre propre vie personnelle et puis la fin de notre monde. Et ces eschatas, elles commencent quand? Elle commence avec un événement inouï qui est celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça, il n'y a pas eu d'événement plus impensable, plus nouveau dans toute l'histoire du monde. Là, il y a vraiment eu un basculement. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est ouvert dans l'histoire des hommes un temps nouveau, celui de la résurrection du Christ. Alors, autrefois, l'eschatologie, on appelait ça les fins dernières. C'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup. On peut préférer, ça dit la même chose, on peut préférer le mot d'accomplissement. Ça, c'est un mot qui est vraiment biblique. Hein. Accomplissement des Écritures, accomplissement de la loi, tout est accompli. Ben là, ça sera l'accomplissement de notre vie, l'accomplissement du monde. Mais en tout cas, quel que soit le vocabulaire qu'on va utiliser, ce qui est en jeu là-dedans, c'est bien le terme, l'achèvement de notre aventure humaine. Donc, vous voyez, on termine tout ce parcours d'anthropologie par ça. Mais en fait, on aurait très bien pu commencer par ça. On aurait pu commencer par ça parce que la vie de l'homme, le mystère de l'homme, d'un point de vue chrétien, eh ben, ils se comprennent à partir de la fin, à partir de cette idée qu'on est fait pour Dieu. Ça, c'est la clé pour se comprendre. Alors, dans cette matière des fins dernières, de ce qui nous attend à la fin, je ne sais pas si vous-même vous sentez très à l'aise, parce qu'on ne prêche pas énormément là-dessus. Et puis, on a peut-être des vieux souvenirs du catéchisme qui sont peut-être un peu anciens. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a une grosse partie des chrétiens qui n'est pas à l'aise et que le message de la foi sur ces sujets, il est à la fois mal connu et mal compris. Pourquoi ? Il peut y avoir des tas de raisons. J'en vois une parmi bien d'autres qui est toutes les images qui sont attachées au discours traditionnel sur l'au-delà et sur l'accomplissement. Le jugement dernier, Jésus qui siège à la droite du Père, la séparation des brebis et des boucs, les tombeaux qui s'ouvrent, les élus qui vont au paradis, les flammes de l'enfer. Ça, c'est des images qui trottent dans nos têtes et on a envie de se dire, est-ce que c'est pas un peu dépassé? Et à la limite, on pourrait être tenté de rejeter ces images. Et ça, c'est, il faut pas le faire. Parce que le danger, c'est que, vous savez, quand on continue, on jette le bébé avec l'eau du bain, ben, c'est un peu pareil. En rejetant les images, on risque de rejeter cela même qu'elles veulent nous dire, et là, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, que nous sommes faits pour Dieu et pour l'union à Dieu. En même temps, on comprend qu'il y a besoin de clarifier les choses. Et au XXe siècle, il y a vraiment un très gros travail qui a été entrepris sur ces questions d'eschatologie. On a rouvert le chantier, il y a eu pas mal de publications de nouveaux ouvrages, on va en parler dans la bibliographie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la même compréhension de l'eschatologie qu'on en avait au début du 20e ou à la fin du 19e. Et il suffit de voir, vous allez dans les facultés de théologie, moi quand j'ai fait mes études, je ne peux pas savoir le nombre de séminaires qu'il y a eu, eschatologie et écologie, eschatologie et christologie, eschatologie et création. Voilà, on sentait que c'était un sujet qui était vraiment en recherche. Et c'était très important que le travail se fasse, parce que en réalité, les attentes sont vraiment fortes de la part de tout le monde. Est-ce que tous, on ne s'est pas demandé un jour si où on allait ? Est-ce qu'il y a un ailleurs de notre histoire ? Est-ce qu'il y a un au-delà ou pas ? Où est-ce que tout finit là? Voilà. Donc, d'un côté, on n'est pas très au clair. En même temps, la société, elle propose plein de choses en la matière. Je dirais même qu'on est sur un terrain assez encombré. Je vous cite en vrac les expériences de mort imminente, par exemple. Vous voyez que ça revient régulièrement sur le terrain. Des pratiques qui appartiennent un peu à un domaine ésotérique. Par exemple, toutes les pratiques de communication avec les défunts. Les emprunts à d'autres traditions qui ne sont pas les nôtres. À des traditions orientales, par exemple, comme la réincarnation. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens en France qui seraient plutôt portés à croire en la réincarnation qu'à une résurrection des morts. Mais ça ne vient pas de chez nous. Ça vient de l'hindouisme ou du bouddhisme. Et donc, c'est pas toujours facile de se situer, de se dire, bon, ben, dans tout ce foisonnement, vers quoi est-ce qu'on tend? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas laisser le terrain en jachère. On ne peut pas laisser penser qu'il n'y a rien à trouver auprès des chrétiens, parce que vraiment, ils ont une parole à dire sur ces sujets. Et je dirais même qu'ils ont à dire, il s'agit là du cœur de leur foi. Alors, posons-nous la question pendant toute cette soirée. Est-ce qu'on est capable de rendre compte d'une espérance crédible sur l'au-delà de la mort? Est-ce qu'on est capable de rendre compte d'une espérance crédible sur l'au-delà de la mort? Et deuxième chose, est-ce qu'on est capable d'en montrer l'impact pour la vie ici-bas? Parce que c'est bien beau de se poser des questions pour après, mais en fait, l'eschatologie, c'est pas que pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Et vous verrez, déjà là, pas encore, c'est vraiment le couple phare de la réflexion eschatologique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces deux cours? L'objectif, c'est évidemment pas de transmettre un savoir. On n'est pas dans l'ordre du savoir. On voudrait simplement essayer de clarifier le discours sur la foi. Et on va le faire en partant du credo. Je crois en Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la résurrection des morts. Je crois à la vie éternelle. Ça, ce sont des affirmations eschatologiques. Eh bien, je dis, il faut faire confiance à ces affirmations de foi. Elles sont pas nées de n'importe où. Elles ont pris une forme, celle qu'on trouve actuellement dans notre credo, qui s'est précisée au fil du temps, au fil des conciles, dans la lutte contre les hérésies. On arrive à cette forme-là aujourd'hui avec un seul but, qui peut-être nous pose des questions, mais avec un seul but, c'est rester fidèle à la foi des apôtres, rester fidèle à la foi reçue de Jésus. Et donc, le rôle de la théologie, eh bien, c'est de les expliciter pour aujourd'hui, c'est-à-dire de les rendre accessibles à nos mentalités d'hommes et de femmes du 21e siècle, qui peut-être sont un peu pas hyper à l'aise avec toutes les images que j'ai citées tout à l'heure, mais de nous aider à comprendre profondément ce qu'elles disent de Dieu, ce qu'elles disent de l'homme et ce qu'elles disent du projet de Dieu pour l'homme. Donc, si je viens au plan, cette fois-ci, on va faire voilà, les trois premiers points. Donc, vous voyez, on place toute la réflexion sous le chapeau de l'espérance. On pense notre destinée humaine à la lumière d'une espérance. Et ça, il va falloir lui redonner sa vraie physionomie. Qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Comment est-ce qu'on peut la qualifier? Comment est-ce qu'on peut la justifier aussi? On va commencer par ça. Après, le point 2, on va passer par un point de méthode. Parce que la question des fins dernières, c'est un sujet très particulier. On peut pas faire de reportage, hein, sur l'au-delà. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas de l'ordre d'un savoir. Donc, il va falloir prendre quelques précautions. Après, troisièmement, on va se pencher sur ce que la foi vise fondamentalement d'un point de vue collectif, le retour du Christ à la fin des temps et le jugement dernier. Ça, c'est le jour du Seigneur. Et puis, la fois d'après, ce sera le dernier cours. On envisagera le problème de la résurrection des morts avec un point particulier que celui de la résurrection de la chair. Et puis, le jugement particulier de chacun avec les trois issues qui sont le ciel, l'enfer et le purgatoire. Voilà. Réfléchissez peut-être d'ores et déjà peut-être à des questions qui vous viennent en tête et que vous aimeriez voir traitées. Et puis, voilà, si ça vous vient, qu'on les laisse pas de...
Oui, effectivement. Le purgatoire, c'est pas une construction du Moyen-Âge ou à peu près de...
Si, 12e siècle.
12e siècle, c'est ça, donc
oui. Exactement. On en dira un mot, mais c'est pas celui qu'on traitera encore.
D'accord.
Moi, j'ai une autre question, parce qu'à chaque fois, je suis un peu bluffée par les définitions. Est-ce que vous pouvez redonner, selon ce que vous nous apprenez, le mot « espérance » ?
Ah ben alors là, c'est toute la première partie.
Voilà, ça sera expliqué voilà. Comme ça.
Ça, c'est
okay, d'accord. Merci.
Effectivement, il y a pas mal de confusion là-dessus. Alors, la bibliographie, je dis un mot. Balthazar, vous voyez, tout petit livre. « L'enfer, une question ». Ça, ce sera plutôt pour la prochaine fois. Il a écrit deux, c'est un immense théologien, hein, un théologien catholique, un suisse. Il écrit en allemand. Deux ouvrages sur l'enfer. Il a commencé par en écrire un. Il y a eu beaucoup de critiques. Du coup, il a écrit un deuxième pour réfuter les critiques. Vraiment, il traite très, très bien de cette question. Ensuite, Benoît XVI, une lettre encyclique, tout petit aussi. On va beaucoup en parler dans le numéro 1. C'est la lettre encyclique Spe Salvi, sauvée dans l'espérance. Donc là, on est dans un texte du magistère, un texte officiel de l'enseignement de l'Église. Ensuite, Gustave Martelet, il est aussi l'au-delà retrouvé. Ça, c'est un théologien jésuite dont on a parlé. Celui-là, c'est celui qui disait la création ex amore. Jésuite, lui-même a été pas mal marqué dans sa vie par la mort de très proches, son frère jumeau, etc. Et du coup, il a une réflexion qui est vraiment très pertinente sur l'au-delà et qui n'est pas abstraite, si vous voulez. Il dit la mort, c'est vraiment une question qui se pose à nous, très existentielle. Donc, comment est-ce qu'on parle de ces choses-là ? Bernard Sesbouet, la résurrection et la vie. Donc, encore et toujours Bernard Sesbouet, mais je vous l'avais dit un petit peu la dernière fois. Donc là, on a pas mal parlé de ça. Intéressant aussi parce que c'est de la théologie, ça c'est clair et net, et en même temps c'est assez nourri d'entretiens qu'il a eu avec des gens qui étaient frappés par le deuil. Donc il trouve vraiment des mots justes, je trouve. Guardini, non, je ne vous l'ai pas mis. Charère, la résurrection des morts. Ça fait longtemps, je ne me souviens plus très très bien de ce livre. Mais la collection, tout simplement, elle est toujours très bonne. Donc, je vous signale qu'il y a un numéro sur la résurrection des morts, si c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et puis, je vous ai mis deux vidéos d'Olivier Clément. C'est la suite, hein, l'une de l'autre. Là, c'est vraiment, c'est brillant. C'est formidable. Mais écoutez-les plutôt à la fin de la deuxième fois ou pour le prochain cours. Parce que c'est un peu comme un récapitulatif. Vous allez voir de tout ce qu'on a dit dans ce cours d'anthropologie. Voilà. Mais vraiment un grand, grand théologien orthodoxe. Ça pourrait presque être le point d'orgue du cours. Voilà. Sachez qu'il y a aussi d'autres livres. Hein. Il y a un livre de Ratzinger sur la mort et l'au-delà. Enfin bon, il y a encore des tas de livres qu'on pourrait mettre. Alors, est-ce qu'on y va ? Ça va ? Il y a d'autres besoins de petites précisions ? Alors, on y va. Pourquoi commencer par l'espérance ? Donc, je vais vous mettre le livre de... Voilà. Pourquoi commencer par l'espérance ? Parce que quand on parle des fins dernières, on parle donc d'un accomplissement, mais cet accomplissement, il est en avant de nous. Et donc, il est en espérance. Alors, c'est quoi notre espérance ? Eh bien, justement, il y a ce petit livre, il y a cette lettre encyclique, donc beaucoup d'autorité, qui a été publiée par le pape Benoît XVI. Cette lettre, en plus, elle est adressée à tous les chrétiens. Autrement dit, c'est pas une lettre pour des spécialistes. Et pourquoi est-ce qu'il adresse à tous les chrétiens ? Parce que ce qu'il veut faire, c'est vraiment remettre au centre de la foi l'espérance. Et il dit, dans la vie des premiers chrétiens, la foi et l'espérance, ça marchait toujours ensemble. C'était indissociable. La foi était espérance. Tout simplement parce que les premiers chrétiens croyaient que Dieu était un Dieu fidèle, qu'ils avaient, Jésus était encore tout proche d'eux, et pour eux c'était une évidence, que la foi leur donnait l'espérance. Ça c'est quelque chose qu'on voit, attendez, excuse-moi, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai peur. Voilà. Donc la foi est espérance, on voit ça dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, vous voyez ça dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, dans les lettres de Paul, première aux Thessaloniciens. Mais parmi toutes ces fois où on parle de l'espérance comme quelque chose de central, il y en a une qu'on a lu la semaine dernière dans Romains 8. Et Benoît XVI traduit ce petit passage de Romains 8, 24. Dans l'espérance, nous avons été sauvés. Sauvés dans l'espérance. C'est de là qu'il tire le titre de l'encyclique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De quel genre d'espérance il peut s'agir pour que Paul et puis Benoît XVI puissent dire qu'à partir de cette espérance, on peut être sauvé ? Eh bien, l'espérance chrétienne, ce que Benoît XVI veut nous dire, c'est que d'abord, elle excède bien largement la vision courante qu'on en a. Souvent, on l'assimile à l'espoir. Or, c'est pas la même chose. L'espoir, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans le cœur, mais qui se nourrit toujours de raisons terrestres, de raisons concrètes qui nous donnent d'espérer. Alors que l'espérance, la grande espérance, comme dit Benoît XVI, eh ben, elle peut encore habiter les cœurs quand apparemment toutes les raisons d'espérer semblent faire défaut. Espérer, au sens chrétien, c'est pas simplement croire que tout ira mieux demain. C'est, encore une formule de Paul, espérer contre toute espérance. espérer contre toute espérance. Où est-ce que Paul dit ça? Il dit ça toujours dans la lettre aux Romains, chapitre 4, à un moment où il prend l'exemple d'Abraham pour nous expliquer ce que c'est que l'espérance. Et il nous dit, Abraham n'a pas faibli dans la foi. Abraham n'a pas succombé au doute. Espérant, je cite, espérant contre toute espérance, il crut. Pleinement convaincu, écoutez comme c'est beau, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Vous imaginez, hein, Abraham espérant avoir un fils, Abraham dans son pays espérant avoir une terre, cette descendance, comment ça pouvait être possible? Pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Ça, c'est vraiment l'espérance. Pour reprendre une autre image biblique, espérer, on pourrait dire, c'est avoir confiance dans le maître de la moisson. C'est croire que ce qu'il a semé, ça germera un jour. Voilà. Alors, cette espérance, on va essayer de la qualifier. Premier point du plan, l'espérance chrétienne est théologale. Peut-être savez-vous que l'espérance, comme la foi et la charité, ce sont ce qu'on appelle des vertus théologales. Qu'est-ce que ça veut dire? Théologale, pas théologique, hein. Théologale, on se situe sur un plan relationnel. Ça veut dire qu'on est dans l'ordre de la relation. À la différence de théologique, on est plutôt dans l'ordre du discours, de la réflexion. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que la foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales? Eh bien, d'abord parce qu'elles viennent de Dieu. Elles sont un don de Dieu. Les vertus théologales, on ne les acquiert pas. Elles sont données. À la différence d'un autre type de vertu, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un autre groupe de vertus qu'on appelle les vertus... Vous connaissez, hein? Je suis sûre.
Les cardinales?
Les vertus cardinales. Alors, peut-être que c'est obscur, les vertus cardinales. Est-ce que vous savez combien il y en a? Donc, 3 vertus théologales et combien de vertus cardinales? Non, pas 7. 4. Alors, est-ce que vous arrivez à les retrouver? Les 4 vertus cardinales. Cardinal, ça veut dire, cardo, c'est le bon. Ça veut dire que c'est le joint de tout le reste, hein.
Justice, prudence, force, tempérance.
Voilà. Oh ben, wow. Bravo. Justice, tempérance, force, c'est-à-dire le courage, tempérance, hein, à savoir être dans le juste milieu, la justice, on comprend, et la prudence. La prudence, on l'oublie. La prudence, c'est l'art de gouverner sa vie, en fait. C'est pas d'être pas téméraire, c'est l'art de savoir bien gouverner sa vie. Et ben ça, c'est des vertus cardinales, ça veut dire qu'elles sont centrales pour la vie chrétienne, mais ce sont des dispositions qui s'acquièrent. Elles s'affermissent. Par l'habitude, par l'exercice, si vous apprenez un petit enfant à être courageux dans les petites choses, vous avez peut-être une chance qu'il deviendra courageux dans les grandes. Quelqu'un à qui on apprend à être juste, ben voilà, on progresse au fur et à mesure qu'on s'exerce à être juste, on peut croire qu'on progresse dans la justice. Alors que l'espérance, c'est un don. C'est une force qui est donnée. Ce que ça veut dire, c'est quelque chose qu'on peut demander au Seigneur. C'est qu'on peut demander de la fortifier en nous. Et en même temps, là où c'est quand même une décision, c'est que c'est aussi un acte de foi, un don, ça s'accueille. Donc à un moment, il faut faire le pari de la confiance. Et ce pari, ça se traduit pas qu'en paroles. Ça aboutit à des actes. Quand on espère, ça aboutit à des actes. Ça veut dire, je vais faire tout ce que je peux pour que la vie soit encore possible. J'y crois et je vais faire que tout ce que je peux pour que la vie soit encore possible, pour ouvrir un avenir. Alors même peut-être que je suis pas sûre d'en mesurer des fruits pour moi-même. Je vais vous donner un exemple, mais je vais vous le donner après. Et ces vertus, elles sont aussi dites théologales pour une autre raison. Donc, un, elles viennent de Dieu, c'est un don. Deux, elles ont Dieu pour objet. Elles ont directement Dieu pour objet. En qui on croit? En Dieu. Qui on aime? Dieu. Et évidemment, l'amour de Dieu n'est pas délié de l'amour du prochain, mais il s'agit d'aimer Dieu. Et qui on espère? On espère Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit « On ne peut espérer de Dieu moins que lui-même. » Alors, si vraiment ce qu'on espère, c'est Dieu, vous voyez la portée que ça peut avoir. Ça transforme vraiment le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Je me pose la question de mon identité et Dieu répond « C'est moi l'objet de ton espérance. Tu es capable de moi, tu es fait pour moi, tu es appelé à partager ma vie. Tu n'es pas un être vers la mort, comme on dit certains philosophes, tu marches vers moi. Tu marches vers moi, ton Dieu, je suis ton espérance. Là, on retrouve vraiment tout ce qu'on a dit sur le salut la dernière fois, hein, l'autocommunication de Dieu. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on parle de l'espérance comme étant une vertu théologale, très très loin d'une espérance qui trouverait sa source dans nos efforts. C'est une espérance qui ne doit rien au progrès, qui ne doit rien à la technique. Ici, l'espérance, c'est Dieu qui lui-même vient à nous et c'est un don absolument gratuit. Alors, vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais quelles sont les preuves qui permettent d'asseoir une telle espérance? Est-ce que il faut la fonder, cette espérance? Alors, on peut pas parler de preuves. Il n'y a pas de preuves. Parce que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est tous, on vit sous un régime qui est très particulier, qui est le régime de la promesse. Dieu nous a fait des promesses. Et on est sous le régime de l'attente. On attend. Et notre seule assurance, et là je parle pas de preuves, notre seule assurance, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole, elle a quand même traversé les siècles pour revenir jusqu'à nous. Et aujourd'hui, elle attend peut-être qu'on l'accueille dans la confiance. Autrement dit, je vais vous montrer. Autrement dit, il va nous falloir passer par la porte étroite de la confiance. Porte étroite parce que c'est pas si facile. Vous connaissez peut-être cette image de la porte étroite dans l'évangile de Matthieu. Je lis, ou quelqu'un peut peut-être lire. Bernadette, vous voulez bien lire? Avec le micro?
Oui, c'est mieux. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserrée, le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent.
Cette petite phrase-là, souvent on l'interprète, et je ne dis pas que ce n'est pas possible, on l'interprète souvent comme une question de morale. C'est-à-dire, si on fait bien, et ce n'est pas si facile de faire bien, si on fait bien, on passe, et sinon, non. Mais la porte étroite, peut-être que c'est aussi le passage qui consiste à faire pleinement confiance, à s'en remettre totalement, simplement sur la base de cette parole qui est venue jusqu'à nous. Comme Abraham, l'espérance, c'est vrai que ça ne va pas de soi. Pour ça, peut-être que c'est donné. Des trois vertus théologales de Charles Peggy, c'est la plus difficile à trouver. Charles Peggy, vous avez ça dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Il l'appelle la petite fille espérance. Et il a une très belle définition. Il dit la petite fille espérance, c'est celle qui voit ce qui n'est pas encore et qui sera, qui aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle voit ce qui n'est pas encore, mais qui sera un jour, vous voyez? Je comprends, c'est vrai, que pour espérer, il faut avoir reçu une grande grâce. Il faut avoir reçu une grande grâce. Mais en même temps, ça se demande. Donc, pas de preuve, seulement une espérance. Mais cette espérance, elle n'est pas dénuée de fondement, parce qu'elle est tout simplement enracinée dans le Christ. Et rien de ce qu'on va dire maintenant, de ce qui nous attend après la mort, ne peut être délié de ça, de cette espérance apportée par le Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre dès qu'on parle, dès qu'on tourne autour de la question eschatologie, c'est que rien ne peut être délié de l'espérance apportée par le Christ. Le Christ, c'est le fondement de notre espérance. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de l'espérance chrétienne. Vous voyez, elle est théologale, c'est un don de Dieu. Et elle a Dieu pour objet, notre espérance c'est Dieu, et en même temps elle est christologique. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais en plus précis. L'espérance, évidemment, elle date pas du Christ. Si vous regardez la vie du peuple d'Israël, vous voyez que l'espérance, on a parlé d'Abraham, mais elle est maintenue tout au long de son histoire, même pendant l'exil, même quand tout semble perdu. Elle tient bon. Elle tient bon parce qu'elle est enracinée dans les merveilles que Dieu a déjà accomplies pour le peuple. C'est souvent en regardant le passé qu'on peut s'asseoir sur quelque chose qui vous paraît ferme. Alors, partout dans les psaumes, vous voyez cette espérance. Donc, je vous en prends un qu'on récite tout le temps, qui est très à la mode en ce moment, le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Il n'y a pas de l'espérance là-dedans? Mais je vais vous prendre, mais ça on les connaît bien, ces psaumes. Alors je vais vous prendre autre chose, je vais vous prendre un prophète. Et je vais vous prendre Jérémie. On est à la veille de la destruction de Jérusalem par les troupes de Nabucodonosor. Bon, c'est juste avant l'exil. Et bien voilà ce que dit Jérémie. Oracle du Seigneur, hein, ça c'est le psaume. Voilà, oracle du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur parle par sa bouche. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Jérusalem est complètement assiégée. Hein. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alors on se dit, bah, très bien, Jérémie, voilà, il y a l'espérance qui lui tient, mais enfin, quand même, c'est pas évident. Bah, pour Jérémie, c'est pas que des mots. Et c'est là où on peut se dire, ben, vous disiez tout à l'heure, l'espérance, ça se vérifie, ça se concrétise dans des actes. Ben, vous savez ce qu'a fait Jérémie? Alors que vraiment, Jérusalem semblait vouée à la perdition, et ben, il a tout simplement acheté un champ. Sur cette terre, dont tout le monde pouvait penser qu'il la reverrait jamais. Ben voilà. Ça, c'est un acte symbolique, très fort, qui témoignait de son indéfectible espérance. On pourrait lire d'autres choses dans le chez les prophètes. Vous pourriez lire, notez si vous avez envie, Isaïe 65, 17-21. Je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Voilà, un récit qui est plein de promesses, qui nous parle d'une libération avec des promesses de bonheur. Donc là, on est vraiment devant un Dieu qui nous promet son règne et qui invite à marcher dans la confiance. Donc Israël déjà espère. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'espérance chrétienne, elle est christologique. Parce qu'évidemment, à un moment, Jésus vient. Jésus, c'est le Messie que les Juifs attendaient du fond des âges. Ben, Jésus, c'est celui qui annonce et qui inaugure le règne de Dieu. Et là, tout va changer. En Jésus, Dieu dit un oui définitif à l'humanité, un oui définitif à notre monde. Jésus, c'est l'un de nous. Eh bien, Jésus ressuscité nous dit, avec toi, avec moi, tu ressusciteras. Avec moi, votre humanité à tous est appelée à passer en Dieu. Et bien, toute la doctrine des fins dernières est fondée sur ce fait de la résurrection du Christ. Si je le disais avec d'autres mots, je veux dire, le Christ est le fondement de notre espérance. C'est là-dessus qu'on assoit notre espérance. Il est arrivé quelque chose à la mort. Elle n'est plus le dernier mot. On en a là. La manifestation dans la résurrection du Christ. Donc, c'est le fondement de notre espérance. Et aussi, il en est la fin. Il en est la réalisation. Notre espérance, c'est d'être avec lui pour toujours. Alors, on va prendre un petit exemple très concret, qui est ce qu'écrit Paul aux Thessaloniciens. Paul avait fondé une petite communauté à Thessalonique. Et puis, il se trouve que dans la communauté, il y avait certaines personnes qui s'inquiétaient de savoir ce qu'allait devenir ceux qui étaient déjà morts, donc qui n'avaient pas entendu parler de Jésus. Est-ce que eux aussi allaient ressusciter? Alors voilà la réponse de Paul. C'est un texte qu'on entend beaucoup aux funérailles. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si en effet, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous voyez, là, c'est le fondement. De même aussi, ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Vous voyez, l'espérance, là, c'est le point de distinction que met Paul avec les païens. Ne soyez pas dans la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tous ressusciteront. Donc, c'est là qu'on voit très clairement que dans le Nouveau Testament, en raison du mystère pascal, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, on voit que cette expérience, tout d'un coup, elle prend une dimension qui est extraordinaire. Et si on regarde dans ces premiers siècles, la symbolique chrétienne, celle qu'on voit affichée sur les fresques des catacombes, sur les tombes, sur les sarcophages, ben, il y a des images que vous connaissez déjà, Ictus, vous vous souvenez, le poisson, hein, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Vous avez le chrisme, c'est-à-dire les deux premières lettres, Christos, le qui et le ro, au milieu, là. Vous voyez ici le qui, le ro, Christ ressuscité, qui est l'alpha et l'oméga. Ça, c'était un symbole chrétien très fort des premiers siècles. vous avez d'autres symboles, vous avez l'orante, vous avez la colombe, eh bien, on voit apparaître l'image du bon pasteur dans les catacombes, par exemple. Le bon pasteur qui porte la brebis sur ses épaules, vous avez mis deux exemples. Eh bien, ça, c'est vraiment une image qui exprime la foi dans le Christ Sauveur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 22. Je ne crains aucun mal, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Autrement dit, l'espérance chrétienne, elle est christologique, elle est fondée sur le Christ. Dans Spes Salvi, Benoît XVI a cette petite formule qui résume tout. Jésus apporte la rencontre avec l'espérance. Alors, est-ce que ça va là-dessus? Espérance théologale, espérance christologique, fondée sur le Christ. On va rajouter deux petites notes. Espérance pour l'au-delà, bien sûr, c'est ce qu'on attend, mais aussi pour aujourd'hui. Pardon, je vais trop vite. Voilà. Parce que bien sûr, ici-bas, on est encore dans le temps de l'attente. Mais en même temps, il faut bien qu'on vive notre vie jusqu'au bout, hein. Voilà, il faut qu'on aille au bout de notre projet à chacun, de notre vie à chacun. Mais en même temps, pourquoi je dis que c'est déjà pour aujourd'hui? Parce qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, quelque chose a déjà changé. Du définitif a déjà eu lieu. Et donc celui qui a l'espérance, il vit déjà différemment parce que il sait qu'une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Il sait qu'il est comme Paul, ce que je vous avais dit dans des cours français, on vit déjà comme des vivants, on vit déjà comme des ressuscités. La résurrection du Christ, c'est comme si la fin des temps surgissait déjà dans l'histoire. On peut déjà dire qu'on est entré dans les temps de la fin. Donc, sauver dans l'espérance, comme le titre de Benoît XVI, sauver dans l'espérance, c'est pas qu'une promesse pour demain. Bien sûr, quelque chose est encore à venir. Et on attend le jour où Jésus reviendra dans la gloire. Mais quelque chose en même temps a déjà commencé. Parce qu'il est venu habiter notre faiblesse, habiter notre humanité, et qu'il est déjà ressuscité. C'est fait. Donc, déjà libéré, déjà sauvé, et en même temps, pas encore, parce que tout n'est pas pleinement manifesté. Alors, je vais prendre une image, peut-être aidera à comprendre, c'est fantastique comme image, mais c'est un peu comme au moment du débarquement. Alors, ma sœur, je ne sais pas si vous savez, mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand on était sous l'occupation allemande, on espérait qu'une chose, c'était que les Américains débarquent. Et un jour, ils ont fini par débarquer. On avait déjà plusieurs années de guerre derrière nous. Eh bien, quelque chose a déjà eu lieu. En même temps, à Paris, eux, ils sont en Normandie. À Paris, on est encore sous l'oppression, on connaît encore les restrictions, on est encore dans la peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le cœur, on a l'espérance. Et déjà, ça transforme quelque chose dans la vie. On attend, mais dans l'espérance, parce que ils sont déjà là. Vous voyez, déjà là et pas encore. Petite image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui montre que l'espérance déjà transforme la vie. Alors, nous, je pense, au XXIe siècle, on a peut-être moins conscience de cette force de salut de l'espérance, hein, sauvée dans l'espérance, que dans les premiers temps de l'Église. Parce que ça, c'était la mort et la résurrection de Jésus, c'était plus proche de nous, et du coup, ça avait un retentissement sur les existences qui était beaucoup plus fort. Et du coup, Benoît XVI, dans son livre, il prend l'exemple de Bakita pour nous faire comprendre comment l'espérance, encore aujourd'hui, traverse la vie peut transformer une vie. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Bakita, le livre de Véronique Olmy?
Oui.
Oui?
Moi, je viens d'arriver.
Ah, c'est qui? Qu'est-ce qui parle? Parce que je vois.
C'est Catherine.
Pas... C'est Catherine. Bon, eh bien.
Catherine de Rouen.
Catherine de Rouen. Eh bien, Bakita, c'est un.
Attendez. C'est remarquable.
Ouais, ça se lit très bien, hein. Ça se lit comme un c'est roman. Pas gay, hein. Véronique Olmy, c'est une romancière. Hein. Mmh. Eh bien.
Bakita.
Eh bien, Benoît XVI, donc, en parle dans son livre. Et pourquoi? Bah parce que cette femme, c'est vraiment une figure d'espérance parmi beaucoup d'autres, mais elle a quand même été canonisée par Jean-Paul II il y a 20 ans. En fait, c'est une Soudanaise qui est morte en 1947, et qui a été élevée, elle vivait au Soudan, elle a été enlevée très petite, à l'âge de 7 ans, enlevée à sa famille, Et en fait, elle a vécu toute sa vie comme une esclave, enfin pas toute sa vie, une grande partie de sa vie comme une esclave, complètement maltraitée, même torturée. Elle va être sauvée miraculeusement, elle va arriver en Italie, et c'est là qu'elle va découvrir la foi chrétienne. Et elle va devenir religieuse. Et même après en Italie, la vie n'a pas toujours été rose pour elle, mais cette femme avait vraiment l'espérance chevillée au corps. Et ce qu'on voit très bien dans le livre, ce que raconte Benoît XVI, c'est que là, on a l'exemple d'une vie qui a vraiment été bouleversée par la rencontre avec le Christ, comme l'ont été peut-être la vie des premiers chrétiens. Parce que pendant des années, elle avait vécu dans un monde sans Dieu, sans espérance, et que quand elle rencontre le Christ, elle découvre l'espérance. Et cette espérance, elle comprend que c'est pas simplement espérer avoir des maîtres moins cruels, espérer manger à sa faim, espérer qu'on la laisse tranquille. C'est la grande espérance qui naît de se savoir aimé quoi qu'il arrive, de se savoir attendu. Et ça, ça va changer sa vie. Voilà, de sa rencontre avec Dieu est vraiment née une espérance qui a transformé sa vie. Voilà, une espérance crédible nous est donnée, et c'est pourquoi Paul se sent en droit d'affirmer ce que reprend Benoît XVI, et au point de départ de l'encyclique, nous avons été sauvés dans l'espérance. Ça va ou...
Oui.
C'est bon ?
Oui.
Donc, pas simplement pour demain, aussi pour aujourd'hui. Et puis, une dernière note encore, pour moi et pour tous. Il n'y a pas d'espérance qui ne prenne en compte la totalité de l'humanité. C'est-à-dire que souvent, nous, on regarde les choses d'un point de vue assez individualiste. Ça, c'est la société qui a évolué dans ce sens-là. C'est peut-être différent dans votre pays, ma sœur. Mais nous, en Europe, l'individu, au fil du temps, il a pris vraiment une place centrale. Donc, chacun raisonne aujourd'hui souvent à partir de ses propres préoccupations. Mais en réalité, on est tissé de nos liens aux autres, tissé de nos liens aux autres et aussi à l'univers. Et ben l'espérance chrétienne, elle est toujours d'abord collective. Et l'eschatologie individuelle, ce qu'on va voir la prochaine fois, elle arrive dans un second temps. Mais l'espérance chrétienne, au départ, elle est toujours collective. La vie chrétienne, c'est pas d'abord un face-à-face avec le Seigneur, c'est se laisser associer au Christ, à son être. Et l'être du Christ, il est entièrement tourné vers le Père et entièrement tourné vers les hommes. Et du point de vue de notre accomplissement, il faut tenir la dimension collective. Donc, on pourrait parler d'une eschatologie collective de l'humanité, de tous les hommes. Et Benoît XVI, il a cette petite phrase au numéro 48 de l'encyclique. Il dit, tout simple, hein, nul ne vit seul, nul ne pêche seul. Vous connaissez tout ce qu'on a dit, hein, péché, la solidarité dans le péché, etc., péché originel. Nul ne pêche seul et nul n'est sauvé seul. Donc, eschatologie de l'humanité tout entière. Et on doit même aller plus loin, eschatologie collective du monde. Quand je dis ça, je dis le cosmos, c'est pas simplement le cadre extérieur de nos vies. Il s'agit pas de penser simplement la fin de l'humanité en elle-même, il faut la penser dans son lien avec le monde. Notre espérance, elle englobe le monde entier. Vous savez qu'on a peiné un peu la dernière fois sur Romains 8, mais on retrouve encore Romains 8, là. Hein, quand Paul disait... la création qui gémit elle aussi dans les douleurs de l'enfantement, et ben voilà, tout dans ce monde n'est pas rose, il y a des douleurs, et en même temps, si on parle des douleurs de l'enfantement, c'est qu'il y a bien l'espérance d'une création qui arrive, d'une recréation, de quelque chose. Un enfantement, ça naît sur du beau, voilà, ça débouche sur du beau, sur une nouvelle naissance, voilà. Voilà, et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'on comprend peut-être mieux, pour le coup, que dans les siècles récents passés, parce qu'on est tellement sensible à l'écologie qu'on comprend bien que notre destin est lié à celui du monde, et ça, c'est pas mal. Et donc, vous voyez comment la culture ambiante peut nous aider à comprendre ça, cette eschatologie collective. Et vous prenez la liturgie, c'est une idée qui s'est jamais perdue dans la liturgie. Maintenant, on a changé les phrases, mais... qu'est-ce qu'on disait à la messe juste avant dans la prière eucharistique, au moment d'offrir le sacrifice, on disait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On disait pas pour mon salut ou pour le salut des hommes, on disait pour le salut du monde. Ben voilà, c'est tout à fait la même idée. Et vous verrez que le dernier cours de tout le parcours du CIF, à la fin de la deuxième année, c'est un cours du père Bernard Clavel sur la liturgie cosmique. Tout le cosmos qui rend un culte à Dieu, c'est tout à fait la même idée. Voilà. Je vous donne un dernier petit exemple pour vous dire que nous, on raisonne beaucoup, vous savez, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, voilà, c'était des cantiques qu'on chantait à nos grands-mères, c'était mon salut personnel, il faut faire son salut, mais anciennement et originellement, l'eschatologie, c'est vraiment une eschatologie et un salut collectif. Je vais vous montrer dans Laudato aussi, dont on a souvent parlé et que vous reverrez aussi souvent. Voilà. Au numéro 243. Attendez. Ah ben, je ne l'ai pas mis vite, pardon. Ben alors voilà, je vous lis. Donc c'est le pape François qui parle, c'est plus Benoît XVI. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à l'espérance sans fin. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le plan détaillé ou pas, je ne sais pas. Voilà, voilà. L'univers qui participera avec nous à l'espérance sans fin. Alors, pour terminer cette partie, je reprends juste un souhait du pape François encore. C'est dans une de ses catéchèses. Il dit que rien ne nous enlève la joie de l'espérance. Voilà, ben je pense que c'est un bon souhait qu'on pourrait tous s'adresser. Ça arrive, qu'on connaisse des moments difficiles dans notre vie, des moments qui peuvent mettre à l'épreuve notre foi, et ben demandons l'espérance, puis qu'elle nous affermisse et qu'elle nous console, parce qu'on est fait pour être heureux, et que Dieu lui-même sera notre bonheur défini. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul dit « Nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Est-ce qu'on croit à ça? C'est la question qui nous est renvoyée. En tout cas, c'est à la lumière de cette espérance que va s'échafauder toute la réflexion sur les fins dernières en théologie. Voilà pour cette petite partie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a répondu à votre question sur l'espérance?
Oh oui,
vous pouvez parler,
tout à fait,
hein.
Tout à fait.
Mais il faut remettre les micros simplement.
Non, c'est, pour moi, c'est difficile de dire que vous avez fait tout le tour du sujet et que j'ai tout compris, mais c'est, vous nous avez ouvert des pistes. Voilà, donc c'est bien.
Voilà, déjà de se dire que l'espérance, ce n'est pas simplement l'espoir, qu'elle est donnée, qu'elle trouve son fondement dans la mort et la résurrection du Christ. Ce que dit Paul, d'une autre manière, il dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Toujours un peu la même idée, que ce n'est pas que quelque chose pour plus tard, quelque chose qui a un impact d'ici là, parce que déjà quelque chose est transformé, et que ce n'est pas un salut qu'on doit penser isolément, individuellement, sans lien avec l'univers. Déjà, ces quatre notes-là, si on les tient, on a déjà une physionomie un petit peu plus précise de ce que peut être l'espérance chrétienne. Mais ça vaut le coup de le lire, hein, ce petit livre. Ça vaut le coup de le lire. C'est très court. Alors, on attaque.
Je dirais que c'est plein d'espoir.
C'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance. Ouais, ouais. Alors, j'attaque la deuxième partie. Espérer n'est pas savoir. Et là, je commence par une évidence. C'est que concernant l'au-delà, vous allez peut-être être déçus, mais on ne sait rien. Donc, même si on en va en parler pendant deux cours, on ne sait rien parce qu'on est dans l'attente de quelque chose qu'on ignore, en fait, en tout cas quant à ses modalités. La seule expérience qu'on puisse avoir ici-bas, c'est celle qu'on est des êtres finis, c'est celle qu'on est promis à la mort, et c'est celle du deuil, parce que même notre propre mort, bon, on y passera un jour, mais en attendant, on n'en a pas d'expérience. On a simplement l'expérience de la mort des autres. Pour le reste, rien. Et vous remarquez que Jésus, le seul qui soit revenu de la mort, est resté extrêmement discret sur le sujet. Il n'a pas fait de révélation fantastique sur l'au-delà. Alors, pourquoi est-ce qu'on se permet d'en dire quelque chose? Eh bien, justement, ce n'est pas parce qu'on ne sait rien, qu'on ne croit rien ou qu'on espère rien. Et je vous dis, on croit et on espère en Dieu qui a ressuscité Jésus. On croit et on espère en un Dieu qui est donc plus fort que la mort. Et ça, c'est, je répète encore une fois, c'est vraiment la grande affirmation qui conditionne tout le discours eschatologique. C'est-à-dire, on ne croit pas, contrairement aux païens sans espérance, pour reprendre un mot de Paul Valéry dans Le cimetière marin, un vers de ce poème, Le cimetière marin, on ne croit pas que tout va sous terre et rentre dans le jeu, J-E-U. Voilà. On ne croit pas que tout finira dans le néant et dans l'oubli. Et on a, au moins chez les catholiques, c'est un peu moins vrai chez les protestants, mais on a au moins chez les catholiques une tradition dans l'Église qui dit des choses extrêmement importantes sur l'au-delà. Et c'est ça qu'il faut essayer de clarifier. Parce qu'il faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Soit parce qu'on a des discours un peu imprécis ou défaillants, on peut vraiment dénaturer la foi ou porter atteinte à sa crédibilité, au point que la Commission théologique internationale a vraiment fait paraître un document il y a quelques années en disant « attention, il faut être carré là-dessus ». Parce qu'on touche au cœur de la foi, et si on le dit mal, ou si on le présente mal, ou si on l'élude, eh bien, on porte vraiment atteinte à la foi. On peut faire croire que la résurrection, c'est complètement accessoire, on peut faire croire que l'idée de l'enfer n'a aucun sens, etc. Parce qu'on les balaye d'un revers de main. Donc, ce document appelait à justement qu'on fasse ce travail de réflexion. Juste deux, trois petites précautions. Un, quand on parle de ces choses-là, mais vous le verrez, vous en avez peut-être fait l'expérience en groupe, il faut essayer de mettre à distance ces affects. C'est vrai que c'est des sujets qui nous impliquent énormément, qui nous rejoignent dans notre expérience et souvent dans des expériences douloureuses. Mais quand on fait de la théologie, ben, il faut essayer de mettre ça de côté pour vraiment raisonner à partir de la Bible et de la tradition de l'Église. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître bizarre. Il faut comprendre que c'est toujours à partir de son présent qu'on se rapporte à l'au-delà. Alors, je vais expliquer. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Tout le monde est d'accord, mais il y en a un qui l'a dit d'une manière peut-être un petit peu compliquée, mais qui dit bien ce qu'elle dit. Les énoncés eschatologiques, donc tout ce qu'on dit de l'au-delà, hein, que Jésus reviendra, qu'il y aura un jugement dernier, qu'on est promis à la vie éternelle, que voilà. Les énoncés eschatologiques sont la transposition dans l'élément du futur, on transpose dans un avenir, ce que l'homme, comme chrétien, vit dans la grâce comme son présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est important ça. Ça veut dire qu'en lui-même, l'au-delà, il nous échappe. On ne peut pas en faire de reportage. Ça veut dire que ce que je peux en dire, comme chrétien, ça s'appuie sur mon présent. Ça s'appuie sur ma relation présente à Dieu, sur l'expérience que j'en fais, sur ce que je constate que ça produit déjà dans ma vie. Quand je parle de ce qui m'attend, je ne parle pas simplement d'un avenir qui serait en rupture. Je parle aussi de mon présent. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire, c'est des projections de mon désir. C'est dire que ce que je sais des réalités dernières, je le sais un peu, on pourrait presque dire, dans une forme d'anticipation de ce que je sais déjà de moi-même et de mon présent de salut. Je projette dans l'avenir l'expérience que je fais déjà du même du Christ, aujourd'hui. Bon. Ça, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une continuité entre la vie future et notre vie d'ici-bas. C'est pas une rupture. Ce que j'expérimente déjà ici-bas de la grâce de Dieu, de ce que Dieu transforme dans ma vie, c'est ça qui me permet de dire quelque chose de ce qui m'attend au-delà de la mort, notamment. Il y a la Bible, il y a la tradition, mais ça veut dire que c'est pas absurde de penser ça parce que je le touche en quelque sorte du doigt dans ma vie présente. Je complète avec une dernière précaution. Mais qui est différent, c'est que dans ces matières, il va falloir une attitude spirituelle un petit peu particulière, une attitude de dépossession. À partir du moment où on dit que ça nous échappe, eh ben on va pas pouvoir mettre la main dessus. Ce don, cet accomplissement final, c'est un don de Dieu. Et il n'y a pas à décider de ce que sera ce don en fonction de ce que moi, homme, créateur fini, raisonnablement aujourd'hui, je peux croire. Si on s'arrête selon la vraisemblance, on s'arrête tout de suite. La résurrection à vue humaine, est-ce qu'elle est possible? Non. On sait bien qu'on est fait pour vieillir et pour mourir. Ça, c'est la biologie. Notre corps est fait pour ça. Ça, c'est l'évidence sensible. Mais de quel droit faire de nous-mêmes la mesure du don de Dieu. Dieu n'est pas à notre mesure. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Eh bien, réfléchissez à d'autres expériences, ne serait-ce que la création. Si on regarde la création, dans son immensité, dans sa beauté, dans la complexité de ses lois, dans sa surabondance, on comprend bien que ce n'est pas notre mesure. Voilà. Ben, cette expérience qu'on fait à partir de la création, on peut la faire aussi à partir de ce qui nous attend pour la fin. Et ça veut dire que dans tout ce qu'on va dire là, ben, peut-être qu'il faut accepter d'être un peu bousculé par ce qu'annonce la foi. Et puis, qu'il faut renoncer aussi à savoir et à s'assurer. Ce que nous disent les évangiles simplement, c'est que la vie est possible au-delà de la mort, mais ils ne racontent pas grand-chose de plus. Et donc, il va falloir s'en remettre et lâcher prise. On retombe sur la porte étroite. Alors, ça va? J'attaque un dernier petit point de méthode, qui est le point 2, les représentations de l'au-delà et l'idée de la foi. Ça, c'est important pour déminer un peu toutes ces questions d'image. Parce que quand on se rapporte à l'au-delà, et depuis tout à l'heure, je ne vous parle qu'à travers des représentations. Une représentation, c'est un terme qu'on utilise en philosophie ou en théologie pour désigner ce qui permet de rendre une réalité présente alors qu'on ne l'a pas sous la main. Par exemple, si je dis cheval, tout le monde se figure ce que c'est qu'un cheval, mais c'est une représentation, il n'y a pas de cheval parmi nous. Mais voilà, on se rejoint sur ce qu'on veut dire. On a un mot dans la langue française pour le dire, c'est une représentation. Eh bien, les représentations, pour parler de l'au-delà, elles sont nécessaires parce que l'au-delà nous est inaccessible. Et donc, on est obligé de passer par ces représentations et pas qu'une, par des multiplicités de représentations. Attendez, je fais une petite modification. Voilà. Une multiplicité de représentations. Alors, ça va être quoi? Ça va être des idées, des concepts, des images, des mythes, mais qui vont tenter de dire les actes de Dieu dans ce qu'ils ont de complètement nouveau et d'inouï. Pareil que pour la création. On a Genèse 1 et Genèse 2. Ils disent pas la réalité telle qu'elle s'est vraiment passée. Ils la disent à travers des mythes, des images, le poème de Genèse 1, le récit mythique de Genèse 2. Et ça dit vraiment quelque chose de vrai de Dieu et de l'homme, mais ça le dit à travers des représentations. Ben pour l'eschatologie, c'est la même chose. Alors, ça va être quoi, ces représentations? Jour du Seigneur, jugement, règne de Dieu, résurrection des morts, vie éternelle, ciel. Tout ça, c'est des représentations. Elles ne viennent pas de nous, ces représentations. Déjà, Jésus lui-même les utilise. Dans les évangiles, pour parler de la fin des temps, il utilise des sortes de langages différents. Est-ce que vous pensez à des langages que Jésus utilise pour en parler? Quel genre de langage il utilise?
Les paraboles?
Par exemple, paraboles. Alors, les paraboles, c'est un genre littéraire, c'est une manière de raconter. Il y a des paraboles avec des tas d'images. Alors, auxquelles vous pensez dans ces paraboles? Qu'est-ce qu'il y a comme image?
Le berger.
La parabole, c'est une petite histoire, une petite histoire qui est destinée à nous faire réfléchir.
Les noces.
Les noces. Ah. Ben voilà, les noces, c'est tout à fait une image pour parler de l'accomplissement pour parler des fins dernières. Oui, les noces, exactement. Quoi d'autre? Est-ce que vous pensez à d'autres petites histoires? Il raconte pour parler de la fin des temps. Il y en a des tonnes. Allez-y, ma sœur. Il faut mettre le micro.
Il y a le grain de blé qui doit mourir.
Ah, bah, oui.
Ah, très bien, c'est vrai. Mmh. Ah, ouais.
Le retour du maître.
Oui.
La venue de l'époux.
La séparation des brebis et...
Ah, bah, voilà. Des brebis et des boucs.
Oui.
Matthieu 25, on va en parler tout à l'heure. Le festin. Le festin. La moisson.
Oui, le bon blé est livré. Non, c'est pas ça.
Un petit peu moins, mais c'est pas très loin quand même. Mais une image comme la moisson, là, c'est vraiment dire un jour, il viendra moissonner. Voilà, ça indique un accomplissement.
Donc, la vigne.
Voilà, il y a plein de paraboles. Et puis, il y a un autre, donc, langage parabolique. Donc, ça, Jésus, quand il parle de l'au-delà, il ne fait pas un reportage précis, il ne fait pas une description précise. Il utilise des paraboles pour nous faire réfléchir. Et il utilise aussi un autre matériel, alors là, qui nous déroute. Les paraboles, on rentre très bien dedans. On s'identifie à tel ou tel personnage et on rentre très bien dedans. Par contre, il y a un autre matériel qu'il utilise parce que il était courant à son époque. Mais alors, nous, qui nous déconcerte énormément, c'est tout le matériel apocalyptique. Alors, matériel apocalyptique, par exemple, vous trouvez ça, les images apocalyptiques, par exemple, dans les grands discours de Jésus, qu'on appelle les discours eschatologiques, qui précèdent l'annonce de sa passion. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Les étoiles et le soleil qui tombent du ciel, des incendies, des destructions, la venue du Fils de l'homme sur les nuées avec les anges, plein de catastrophes historiques, cosmiques. Ça, c'est typiquement du langage apocalyptique. Mais lui, il était formé là-dedans, parce que c'est un langage qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est un langage aussi qu'on utilisait dans l'Empire grec avec l'empereur, etc. Il y avait toute une dimension cosmique de l'empereur aussi. Donc, c'est quelque chose qui était courant, mais alors que nous, plus du tout, on ne raisonne pas du tout comme ça. Donc, vous voyez, plein de représentations. Le problème pour nous, notamment avec le matériel apocalyptique, c'est que on regarde plus les choses avec les mêmes lunettes. Et donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ces représentations, elles ne nous parlent plus toujours très, très bien. Le berger, par exemple, dans un autre style, pas dans votre entourage, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà vu un vrai berger avec un vrai troupeau? Moi, oui, parce que je passe mes vacances en Auvergne. Mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais vu de berger avec un troupeau, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un berger. Bon, donc il faut qu'on retrouve le sens de ces raisons d'être de ces représentations, tout en étant bien clair sur que ce ne sont que des supports, et donc il faut arriver à les dépasser. Il y en avait un qui dit ça extrêmement bien, c'est le père de Lubac, donc grand théologien français, cardinal de Lubac. Il avait une très bonne comparaison. Il disait, quand on cherche à avancer dans la connaissance de Dieu, on est comme un nageur dans l'océan. Donc pour avancer, il faut repousser les flots. Si on fait la planche, on n'avance pas. Et ben, les représentations, c'est un peu comme les flots pour le nageur. Elles nous portent. Et en même temps, on avance qu'en les repoussant. Une image nous plaît, c'est à peu près ça. Mais il faut la repousser parce que la réalité est toujours au-delà. Et que les eschatas, les choses de la fin, ben, elles restent un mystère, le mystère même de Dieu. Voilà. Donc, il faut pas s'arrêter à l'une. Il faut pas chercher à les harmoniser entre elles. Chacune dit quelque chose d'unique. Elle met l'aspect sur un aspect différent du don de Dieu, et il faut lui laisser dire ce qu'elle a dit. Et en même temps, on est obligé de passer par elle. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'elles disent fondamentalement? Qu'est-ce qui commande toutes ces représentations? Et alors là, j'aborde un point qui est très important, leur visée, c'est-à-dire ce qu'on attend dans l'espérance, c'est un acte de Dieu, l'acte qui portera le monde à son accomplissement. Ça, c'est très important. On attend un acte de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que quand on dit ça, ça veut dire l'accomplissement, le nôtre, celui du monde. C'est pas l'aboutissement d'un processus interne au monde. C'est pas le déploiement propre du monde qui est voué à arriver à ça. C'est pas non plus le fruit de notre effort. Même si notre histoire, elle a son importance, elle a sa valeur. Mais non, l'accomplissement, ce sera un acte de Dieu. Un acte qui sera vraiment irruption. Révélation, le dernier de la série des actes de Dieu. Et cet acte-là, nous dit la Bible, ce sera vraiment de l'ordre d'une nouvelle création. Donc, dans la tradition de l'Église, on a un mot pour dire ça, deux mots. Ça sera le jour du Seigneur, et qui lui est intimement lié, ou ce sera le jour du jugement dernier. Ça recouvre exactement la même réalité de cet acte qui viendra porter le monde à son accomplissement, et où notre humanité passera définitivement dans le monde de Dieu. Voilà. Et c'est ça dont on va essayer de parler maintenant. Alors, est-ce que sur ce point de méthode... Alors, oui, Andrew.
David.
C'est David.
Je ne sais pas si la question arrive trop tôt.
Non, pas du tout.
Non, mais peut-être que c'est ce qui va être expliqué après, mais juste si j'ai loupé le coche, que je comprenne après. Le jour du Seigneur, le jour du jugement dernier, c'est un avant et un après pour l'humanité ou c'est un avant et un après pour, à titre individuel à travers le...
Alors, il y a toujours deux faces. Il y a toujours deux faces. Il y a la fin de notre vie à nous et puis il y a la fin de notre monde et la fin de l'humanité. Notre accomplissement personnel, parce que je suis une personne unique, et l'eschatologie collective. Le jour du Seigneur et le jugement dernier, ça concerne la totalité du monde et de... Et c'est pour ça que la prochaine fois, on parlera de l'eschatologie personnelle, qui sera notre jugement personnel qui intervient à la fin de notre mort, qui intervient à notre mort. Les deux se rejoignent, mais c'est comme deux faces, en fait. Ça soulève plein de questions, parce que ça, est-ce que ça veut dire qu'après ma mort, je suis dans quel état, j'attends la, est-ce que ça a lieu tout de suite, etc. Vous allez voir ce qui va compliquer les choses, c'est que nous, on raisonne dans l'espace et le temps, on peut pas faire autrement. Or, après notre mort, ou à la fin des temps, on passe dans une autre dimension, qui est celle de l'éternité, en fait. Et celle de l'éternité, quelque chose qui, dans lequel notre monde est englobé, mais qui n'est pas, l'éternité, c'est pas, on en reparlera. C'est pas le prolongement indéfini de notre vie. Mais c'est un monde sans temps. Éternité, ça veut pas dire que ça dure indéfiniment. C'est un monde qui n'est plus dans le temps. Donc, en revanche, ce que vous avez bien pointé, c'est qu'il y a les deux dimensions. Il y a la nôtre et il y a collectif. Quand on dit jour du Seigneur, retour du Christ, fin des temps, ça, c'est l'eschatologie collective, l'accomplissement de notre monde. Oui, alors Catherine.
C'est un petit peu la même question. Vous croyez, ou il faut croire, qu'il y aura une fin du monde?
Oui, qu'il y aura un acte de Dieu qui viendra porter le monde à son accomplissement. C'est ce que toute la Bible appelle le jour du Seigneur.
Moi, pour moi, c'est un peu ce que disait David, la fin, l'accomplissement, c'est le jour de notre mort individuelle.
Oui, sauf que quand on raisonne comme ça, on raisonne pour notre temps, mais les premiers chrétiens ne raisonnent pas du tout comme ça, parce qu'ils sont dans une dimension qui est complètement collective. Et on peut dire que probablement, je crois qu'à votre mort, on va en parler la prochaine fois, mais à votre mort, il y aura déjà un accomplissement de votre vie, parce que vous serez face à face avec le Seigneur, mais que cet accomplissement ne peut pas être plaigné, parce qu'il manque à votre accomplissement l'accomplissement de tous ceux à qui vous êtes liés, et à ce monde dont vous faites plus que partie, c'est pas simplement le cadre extérieur dont vous êtes intimement, auquel vous êtes intimement lié. C'est comme pour Jésus. Jésus, il est vraiment mort et ressuscité, mais on peut dire que l'accomplissement total, le Christ total, c'est quand tout le monde est ressuscité et l'aura rejoint. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Il y a vraiment deux faces. Sesboué en parle comme ça. Il dit deux faces. Et là, pour l'instant, ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est cette dimension totale de dire que notre monde, notre histoire qui n'est pas toujours rose, elle est appelée, et c'est une bonne nouvelle, à un accomplissement en Dieu. Et que cet accomplissement, il n'est pas dû à sa propre logique interne ou à ses propres efforts, mais c'est quelque chose qui lui sera donné. Est-ce qu'il y avait une autre question ?
Okay. Il y a moi encore. Du coup, vous m'entendez, Aude ?
Oui, je vous entends, j'essaye de vous voir. C'est David, oui.
On doit voir finalement ces deux moments, fin des temps, jugement dernier, comme le miroir, le symétrique de la création qu'on a bien détaillé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bulle où il y a l'espace et le temps. Alors tout ça, évidemment, je dis ça avec des mots très physiques qui ne sont pas appropriés du tout, mais il y a quand même une création, un monde qui, dans le temps, va aller vers un rien. En pas rien, un accomplissement, il y a une finalité et quelque chose d'autre.
Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit au début, c'est que ce qu'il faut éviter de voir, et le plan de secours incite un petit peu à ça, et ça c'est un des dangers, il ne faut pas voir création, péché, salut, accomplissement. Tous ces mouvements sont complètement liés en permanence. La création en soi, elle est déjà de l'ordre d'un salut, puisque émerge du chaos un monde ordonné, beau, où la relation est possible, justement parce qu'il y a différence, séparation, etc. Et le salut, cet accomplissement, comment est-ce que la Bible en parle ? Le livre de l'Apocalypse, qu'on relira tout à l'heure, mais qu'on a vu le temps, elle l'appelle nouvelle création, recréation. Mais tout est lié. Donc, c'est pas. Donc, je comprends que les deux sont intimement liés, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, dans notre vie, on peut faire déjà l'expérience avec le baptême, mais aussi peut-être à certains moments de notre vie, où on peut faire l'expérience que de la mort naît la vie, et que d'expériences profondément mortifères, eh ben, peut naître la vie. Et ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience aujourd'hui.
Mais donc, le chaos mis en ordre par la création, l'acte de création, le jugement dernier n'est pas un retour au chaos. Au
contraire. Non. Il faut complètement abandonner l'idée d'un paradis perdu, d'un âge d'or qui serait à l'origine. Ça, non. Ce que nous raconte la Bible, c'est un projet d'alliance. Dieu qui crée pour avoir quelqu'un à aimer. C'était un acte qui n'était pas nécessaire. C'est un acte gratuit de sa part parce que c'est un Dieu qui est amour en lui-même et que cet amour, il se donne et que cet acte de puissance, en fait, qui est là, adapté à l'existence autre que lui, est en même temps un acte de dépossession puisqu'il prend le risque de créer un être libre, donc qui peut refuser cette alliance, qui peut refuser ce projet. Et donc, on a cette histoire humaine. Et c'est vraiment l'histoire humaine est extrêmement importante. Elle n'est pas du tout justement dévalorisée dans le christianisme. C'est une histoire humaine, et ce que cette histoire a de beau, c'est qu'elle prend en compte cette liberté humaine avec ses errements, etc., mais sa grandeur aussi. C'est ça qui fait la dignité de notre vie, et qu'on n'est pas des marionnettes, mais qu'elle est appelée un jour à être, pour dire le mot d'Irénée, récapitulée dans le Christ. Appelé à être réconcilié, d'autres mots que va dire qu'on n'a pas utilisé hein, quand j'ai parlé de salut, mais on les a vus apparaître juste dans des petits textes, mais j'ai pas développé. Ce monde est appelé à une réconciliation totale avec Dieu et entre les hommes, etc. Donc voilà, je sais pas si je réponds quand je dis les choses comme ça. Donc en fait, ce qui nous paraît parfois un peu terrifiant. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, fondamentalement, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut. N'oubliez jamais une chose, que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et que tous les textes qu'on a lus, dimanche dernier à la messe, ceux qui sont allés à la messe dimanche dernier, on a lu un passage de Romains dans lequel il nous dit exactement, nous avons été réconciliés et nous sommes maintenant à être sauvés, appelés à un salut. Il y a de prendre part à la vie du Christ, à la vie de Dieu. Et c'était dans le texte de Romains dimanche. Donc ça, c'est vraiment constant dans la vie. Alors, nous, on le dit en termes, parce que c'est un mot biblique, en termes d'accomplissement. Accomplissement, ça veut dire plénitude. Voilà. Plénitude, recréation. Voilà. On est encore dans des mots. Donc, alors. J'en suis au point 3, du coup, le jour du Seigneur. Et première chose, le retour du Christ et la fin des temps. En fait, c'est quelque chose qui peut nous surprendre, cette idée de retour du Christ. Je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose auquel on pense souvent, mais cet acte de Dieu qui portera le monde à son accomplissement coïncidera avec le retour en gloire du Christ. Ça sera ce que Paul appelle le jour du Seigneur, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Ou autre manière de le dire, ou du jugement dernier. Les deux sont complètement liés. Et peut-être que c'est une idée qui étonne, mais dites-vous que vous le dites à chaque fois que vous dites le credo. Le Christ reviendra dans la gloire, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Le règne de Dieu, c'est quelque chose de positif. Donc, ce jour-là, où le Christ viendra dans la gloire, c'est le jour où tout sera manifesté dans la vérité. Il y aura jugement. Et ça sera vraiment notre passage de notre monde dans le monde de Dieu. Alors, on le dit dans le credo, mais à chaque messe, il y a un autre moment où on dit ça, où on dit qu'on attend le retour du Christ. Est-ce que vous voyez quand ?
à l'anamnèse.
Exactement. Qu'est-ce qu'on dit à l'anamnèse ?
Est-ce qu'il est venu ? Nous attendons son retour.
Nous attendons son retour.
Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus.
Ta mort, Seigneur, oui.
Voilà, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, on n'y fait pas attention, mais on lit à chaque messe. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et il y a aussi dans le calendrier de l'Église catholique une fête spéciale pour ça.
Le Christ roi, non ?
Oui, la fête du Christ roi, et ben c'est exactement ça. Dernier dimanche de l'année liturgique, juste avant de commencer l'Avent, c'est la fête du Christ roi, c'est la fête du retour du Christ dans sa gloire. C'est la fête de l'accomplissement des promesses. Alors, si on va dans les évangiles, eh bien, vous verrez qu'à plusieurs reprises, Jésus annonce son retour. Chez Jean, je vais vous partager l'écran. Partager. Quelqu'un veut bien lire ? Marina, vous voulez bien lire ? Je le vois.
Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi.
Voilà, donc là, un exemple, on est dans l'évangile de Jean, où Jésus annonce qu'il va revenir. Chez Luc, Jésus annonce son retour d'une manière un peu différente. Et il reprend une désignation de l'Ancien Testament pour parler de lui-même, qui vient du livre de Daniel. Le Fils de l'homme, Luc 18, 8, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Le Fils de l'homme, c'est dans la bouche de Jésus, mais ça reprend une vision qu'on trouve au chapitre 7 du livre de Daniel. Si vous vous rappelez, le livre de Daniel, c'est celui qui annonçait un des premiers à annoncer vraiment une foi en la résurrection des morts. Et ben, au chapitre 7, on a cette vision d'un mystérieux personnage qui sera comme un fils d'homme dont on nous dit qu'il viendra sur les nuées pour recevoir la royauté. Et puis, si vous prenez les lettres de Paul, ben, vous avez plusieurs fois où cette venue du Christ est annoncée également. Donc, on a deux venues. La première, c'est laquelle ?
Il est Noël. Il est né, ressuscité, mort, ressuscité.
Noël.
La première venue, c'est Noël. C'est le bébé. Donc, c'est une venue toute simple, une venue très humble, une venue presque cachée, très fragile. C'est l'incarnation. Et puis, on a une deuxième venue dont on nous dit qu'elle sonnera à la fin des temps. Et là, c'est le Christ dans sa gloire, dans tout l'éclat de sa gloire, une gloire qu'on anticipait un petit peu à la transfiguration, qui filtre au moment de la transfiguration. Première venue, l'incarnation, une deuxième venue qui sonnera à la fin des temps, ça sera le retour dans sa gloire. Alors, le mot technique pour dire cette venue, c'est parousie. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez déjà entendu. C'est un mot qu'on trouve dans la Bible, mais au départ, l'origine n'est pas biblique. C'est un terme grec qui veut dire présence. Et donc, c'est un mot qu'on employait spécialement à l'occasion de l'arrivée d'un souverain dans une ville. Donc, il y avait des arcs de triomphe, il y avait des fleurs, il y avait les foules qui acclamaient, c'était une entrée glorieuse. Et bien, la parousie du Christ, son second avènement, ça sera une entrée glorieuse dans le monde à la fin des temps. Et cette entrée instaurera un monde nouveau, ça sera l'achèvement, le terme de l'histoire. Voilà. Alors, donc, je vous dis que dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même annonce son retour. Mais comment est-ce que c'est évoqué par ailleurs ? Eh bien, on a de tout. On a des textes qui nous le disent de manière très, très sobre. Premier chapitre des Actes des Apôtres, il reviendra comme il est parti. De la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, vous voyez, on ne peut pas faire pas beaucoup de détails. Il reviendra comme il est parti. Et puis, on a d'autres, comme en Marc 13 ou en Matthieu 24, qui décrivent ce retour dans un déferlement de violence. Alors, je vous lis. Ces jours-là, mais je vais repartager. Ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Ces jours de détresse. depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus, mais en ces jours-là, après cette détresse, et là on a toutes les images apocalyptiques, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme, encore du langage apocalyptique, venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire, alors il enverra les anges, et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Vous voyez, message assez terrifiant. Ça, ce genre de l'apocalyptique, c'est un genre qui est né 2 siècles à peu près avant Jésus, dans un contexte de très forte persécution. Et donc, c'est vraiment un genre littéraire pour tant de crises. Et les Juifs de l'époque de Jésus étaient très familiers de ce langage. C'est vraiment pour dire que le règne de Dieu viendra, il écrasera tous les adversaires. Et pour nous, ça reste un peu l'image qu'on a de la parousie dans nos têtes. Si vous prenez, vous aimez le Requiem de Forêt, écoutez, regardez les paroles, elles sont en latin, heureusement. Alors, du coup, on comprend pas. Mais c'est vraiment le jour de colère, le Liberame du Requiem de Forêt. Je vous en lis un petit mot. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour redoutable où le ciel et la terre seront ébranlés. Quand tu viendras éprouver le monde par le feu, voilà que je tremble et que j'ai peur devant le jugement qui approche et la colère qui doit venir. Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on chantait, hein. Et c'est ce qu'on chantait aux funérailles. Il n'y a pas si longtemps, on chantait le Dies Irae, mais on chantait en latin. Alors ça, c'était une chante. Alors, c'est que ça veut dire quoi, tous ces bouleversements qui sont dramatiques? C'est un langage dont on n'est plus du tout familier. Ce que ça dit, c'est que c'est la face un peu obscure d'une nouvelle réalité qui est l'accomplissement définitif du règne de Dieu sur la terre. Ça veut dire de la victoire définitive sur le mal. C'est quelque chose qui est vraiment complètement nouveau. Ça sera un bouleversement. Et dans le langage de l'époque, voilà comment on va le dire. On dit, ben voilà, le Christ glorieux va venir. Il va donner son sens ultime à l'histoire du monde et des hommes. Ça sera le déploiement d'un monde nouveau, d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, comme dit l'Apocalypse. Et voilà, ça sera un bouleversement. Donc, c'est la manière de le dire. Maintenant, l'Apocalypse, elle, un texte qu'on a déjà vu, le dit d'une manière qui est beaucoup plus... c'est le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui a donné son nom à ce genre littéraire d'apocalyptique. Mais à côté de ça, là, le livre de l'Apocalypse nous dit, si vous vous rappelez bien, il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de cris, plus de peine, ce sera la fin de l'ancien monde. Dire que Dieu va régner, que le règne de Dieu arrive, ça veut dire que Dieu exercera sa souveraineté dans le monde. C'est-à-dire que sa majesté se déploiera dans tout son éclat, d'où tous les bouleversements apocalyptiques. Et je vous rappelle quand même que le dernier mot de l'Apocalypse et le dernier mot de la Bible, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ».« Amen, viens Seigneur Jésus », c'est une demande. C'est comme une prière. C'est-à-dire que la fin du monde, c'est pas quelque chose, c'est pas un malheur. En réalité, c'est une perspective heureuse. Ce sera le moment où seront réalisées, accomplies notre attente et notre espérance. Quand on dit pour notre Père que ton règne vienne, on ne le dit pas dans un aspect de malheur en attendant des choses catastrophiques. Est-ce que ça vous trouble pas trop ce que je dis là ? Andrew, David.
Tu veux dire un truc avant ? Ok, moi ça me trouble beaucoup. J'ai l'impression qu'on est en train. Je vais utiliser des images, hein, mais évidemment elles ne sont pas appropriées du tout, mais on dirait quand même. C'est la fin du monde. C'est le film apocalyptique qu'on est en train de lire, et on a l'impression que ce n'est pas une fin malheureuse, c'est une fin heureuse. Mais ça rend. À quoi bon tout ça finalement, si finalement la fin heureuse, c'est que tout soit détruit ? Vous comprenez un peu ce que je veux dire?
Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire.
C'est-à-dire que finalement, on a l'impression qu'il y a un super-héros qui va arriver et que de toute façon, tout le monde sera. Tout va disparaître et que.
Alors.
Et ça sera heureux. Bah, allons-y alors.
Non. Justement, tout ne va pas disparaître. Tout sera accompli. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas dans une rupture. On n'est pas dans une discontinuité. Ce monde-là ne sera pas balayé aux orties, il est appelé à un accomplissement, comme à titre personnel, votre vie ne sera pas jetée aux orties, on sera appelé à un accomplissement, à une plénitude qui aujourd'hui n'est qu'en germe en fait, n'est comme, même si elle en a déjà des signes et même si déjà quelque chose est transformé, elle sera appelée à un accomplissement et cet accomplissement, c'est tout ce qu'on a dit dans le salut. C'est une entrée dans la vie filiale, c'est un partage de la vie de Dieu, mais ça, ça sera un vrai changement. Mais c'est dans une continuité. C'est-à-dire que c'est bien vous-même qui êtes appelé à cet accomplissement, ce n'est pas un autre. Et bien, cet accomplissement du monde, puisque là, on est en train de parler de quelque chose de collectif, ça sera de l'ordre d'une nouvelle création, au sens d'une création qui est portée à sa plénitude, à sa... Voilà, c'est là où les mots manquent, en fait. Ce sera le moment où Dieu règnera, là où actuellement, sans partage, là où actuellement, eh ben, on voit que l'histoire est chaotique. Remarquez que dans les évangiles, quelle est la bonne nouvelle qu'annonce Jésus? Ce sont les premiers mots de l'évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Le royaume, c'est pareil. Hein. Règne ou royaume, c'est la même chose. Le royaume de Dieu est tout proche. Il s'est approché en Jésus. Et donc, il y a quelque chose qui est tout proche. Il y a quelque chose qui est déjà là. Et en même temps, il n'est pas encore complètement là. Comme une asymptote, en fait. On tend, mais il n'est pas encore complètement là. Eh bien, et c'est présenté comme une bonne nouvelle. Et ce que j'ai essayé de faire, quand on rentre dans le cœur des évangiles, Jésus annonce cette venue, il annonce cette fin, il annonce ce retour en gloire. C'est dit selon des langages différents. Il y a des langages qui sont plus positifs pour nous quand on va parler de moisson, de noces, de festin. Tout ça, c'est bon. Il y a aussi un langage apocalyptique, mais souvent, il traîne dans nos têtes. Et je dirais qu'il y a aussi une autre raison, je pense, c'est que quand on dit le credo, il reviendra pour juger les vivants et les morts. La manière de le dire fait qu'on assimile retour du Christ et jugement. Le jugement, ouais, pour nous, c'est négatif. Alors que le retour du Christ, c'est lié au jugement, mais c'est l'accomplissement des promesses. Alors, on va revenir sur cette idée de jugement, si vous voulez.
Aude, moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est que aujourd'hui, on voit quand même que notre terre est quand même abîmée. Au plan de tout ce qui se passe au plan écologique, etc. Est-ce que si Jésus revient sur terre, est-ce qu'il trouvera encore un être vivant sur cette terre? Est-ce que la terre n'aura pas explosé ou disparu avant son retour?
Alors là, on ne peut pas répondre, évidemment. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça rejoint une question qui te dit, ça arrivera quand tout ça? Bon, bah là, à nouveau, hein, mais sans que vous êtes voué à avoir votre curiosité déçue pendant les deux cours, personne ne le sait. Il n'y a rien qui permette d'établir une chronologie, de savoir quand ça va arriver. Prenez les premières générations, donc toutes proches du Christ, elles vivaient dans l'attente d'un retour imminent. Elles avaient vu la résurrection, cru en la résurrection du Christ, qui était tout proche d'eux. Et pour eux, cette résurrection, elle inaugurait vraiment la résurrection générale et la fin du monde. On dit que c'était le premier-né d'entre les morts. Donc, pour eux, la résurrection générale, la fin des temps, le monde nouveau, il n'allait pas tarder. Cézoué parle de l'erreur chronologique des premières générations. Si on regarde les propos du Christ, jamais il donne de date. Vous savez, Matthieu 4, mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, c'est Jésus qui dit ça, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même. Personne, sinon le Père et lui seul. Donc là, il dit, on ne sait pas. En même temps, vous avez d'autres passages dans l'Évangile qui disent, Matthieu 24, c'est quelques versets plus loin, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Bon, alors là, et dans les lettres de Paul, on a le témoignage que cette génération de chrétiens était tellement sûre que ça allait arriver de manière imminente, cet avènement, que Paul est obligé de se fâcher contre les Thessaloniciens, parce qu'il leur fait des remontrances, parce que ces Thessaloniciens se laissent complètement aller en attendant paresseusement la fin, ce qu'elle va arriver. Donc on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Vous lisez la première lettre de Thessaloniciens. Pourquoi erreur chronologique? Parce que tout le monde est convaincu que ça va arriver de manière imminente, mais il faut se rendre à la raison, la fin des temps n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Soit on baisse les bras, on se dit c'était du pipeau, soit on continue à réfléchir. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, cette attente de la venue du Christ, on le voit très bien dans les lettres de Paul, elle se reformule. Et la conviction, voilà, qui va s'exprimer, c'est qu'en fait, cette venue du Christ, d'une certaine forme, sous une certaine forme, déjà, elle s'opère dans l'Église, à travers le don de l'Esprit, qui déjà, déjà transforme les choses, et que ce qu'on attend, ça sera la visibilité finale et universelle de cette réalité qui est déjà présente. Et quand vous regardez l'aide de Paul, au fil du temps, on voit qu'au départ, il y a des images apocalyptiques, et qu'à la fin, on les a beaucoup moins, et qu'on s'avance vers un discours qui est beaucoup plus intérieur, qui est celui d'une vie avec le Christ. En réalité, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait pas, et que dans tous les discours de Jésus, quand il parle de la fin du temps, la perspective, l'accent, il est mis sur quoi, à votre avis? Pas sur la date, il est mis sur quoi? Pensez aux vierges folles et aux vierges sages.
Moi, j'aurais dit l'accomplissement.
Non.
Non, mais c'est
la préparation, la rencontre,
la préparation, la veille. Veillez.
Inattendu.
Exactement, Catherine. L'accent, il est mis sur la vigilance. Soyez prêts. Le problème, ce n'est pas de savoir quand ça va avoir lieu. Ça ne se mesure pas, la perspective de la fin, ça ne se mesure pas en années ou en siècles. La perspective de la fin, elle s'envisage d'une manière qui est qualitative. Ça veut dire, elle appartient à l'instant présent. Il faut chaque jour vivre comme si ça devait arriver. Il faut vivre dans l'urgence. Vivre, urgence à se convertir, urgence à suivre le Christ, urgence à aimer selon son commandement. Quand il dit, ce qu'on a lu tout à l'heure, je crois, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, vous-même le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, ça veut dire soyez prêts. Soyez prêts.
Ah, moi, vous me perturbez beaucoup.
Ah, mais oui, bah allons-y, discutons. Mais justement, ouais, non, mais je comprends, hein. Je reconnais que c'est pas facile, c'est des choses dont on peut dire.
Parce que je crois pas beaucoup à la fin du monde. Moi, pour moi, la fin du monde, ce sera ma mort. Mais j'attends pas.
Et les autres. Et le monde.
Alors, il y a eu un début, on dit qu'il y a eu un début et donc il y aura une fin. Arrête de dire des conneries, toi, là-haut. Bon, donc, il y a un début, il y aurait une fin, mais il y aura une fin où il n'y aura plus de monde, alors.
Mais vous avez vu ce que je vous ai lu? Ben, il y a une fin où ce monde sera appelé à vivre en Dieu. Comme vous, à votre mort, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de Catherine. Il y aura Catherine appelée à vivre en Dieu. Ça sera bien vous.
Il y aura plus bien vous. Palpable.
Et ça, c'est le ciel, non?
On en parle pour la prochaine fois. Ça, on en parle la prochaine fois. De la résurrection de la chair, etc.
Alors, il a bien dit que si on avait eu 15 maris, ça ne posera pas de problème. Donc, c'est vraiment un monde qu'on n'imagine pas.
Il a répondu aussi qu'il n'y aurait pas de mariage au ciel. Donc, ça sera l'accomplissement d'un monde. Ça ne peut pas être l'accomplissement d'une personne sans tout ce qu'il a relié aux autres. Aux autres au sens large. Ah ben moi, c'est quelque chose, vous, je ne sais pas, mais moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on peut très, très bien comprendre. Ça dépend peut-être des sensibilités, mais qu'on n'est rien sans les autres. Et que, qu'est-ce que ça veut dire si on est sauvé tout seul? Vous voyez? Parce que nous, on raisonne avec notre mentalité qui est très personnelle. Mais les premières générations, et Jésus, vous savez, quand on a parlé d'universalité de salut, je suis venu sauver tous les hommes. Quand on a lu Romains 8, les gémissements de la personne, l'esprit qui intercède, les gémissements de la création tout entière, Paul dit bien les gémissements de la création tout entière. Et le texte de Laudato si que je vous ai lu, et quand François dit que tout est lié, c'est toute cette création qui est amenée à vivre un accomplissement. Maintenant, je ne peux pas vous la décrire. Je ne peux pas vous la décrire. Mais c'est ça la promesse. Hein. Et la bonne nouvelle, le royaume est tout proche, et c'est que le royaume sera là. Là où il est encore incoatif, là où il est en germe, il vient, et un jour il sera là. Mais réfléchissez quand même à... Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Si à la messe, dans les liturgies, on faisait attention à tout ce qu'on dit, et parce qu'on ne fait plus attention, puis on est fatigué, et puis...
On ne dirait plus rien.
Non, mais voyez, mais on le dit quand même dans le credo. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. et son règne n'aura plus de fin. Voilà. Et pour le salut du monde. Et pour ça, c'est des choses qu'on dit concrètement, mais sans y penser, en fait.
Mais Aude, pour moi, c'était plutôt le ciel, ça. C'était pas...
Alors, on en parlera. Oui. Mais c'est la vie éternelle, on peut dire. On peut tout dire, c'est la vie éternelle. Oui, oui. Oui, oui.
Alors, il est vrai que la grande difficulté pour nous, petits êtres humains, avec notre petit cerveau, c'est qu'on a beaucoup de mal à imaginer un monde sans temps.
Ah ben, on ne peut pas.
On ne peut pas. Or, la fin du monde, elle sera peut-être différente de notre petite mort individuelle, mais pour nous, ce sera peut-être au même moment, puisqu'il n'y aura plus de temps.
Bah, vous dites très bien. Vous dites très bien. Mais nous, on est obligé de raisonner en différé, on ne peut pas s'en empêcher.
Eh oui.
Par exemple, une question qui va se poser, mais on en parlera de la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe dans le temps entre quand quelqu'un meurt, dans le temps où il est face à face avec Dieu et le temps de l'accomplissement du monde ? Nous, on se pose la question, il est quoi ? Il est en suspens, il attend, il quoi ? Il est déjà avec Dieu, il est... Mais ça, c'est des questions qui n'ont pas de sens au regard de l'éternité. Mais nous, évidemment qu'on se les pose. Mais l'éternité, vraiment, ce n'est pas le prolongement indéfini de la vie. L'éternité, c'est... un hors du temps, mais on aura un petit paragraphe sur l'éternité la prochaine fois. C'est un hors du temps, ça casse les codes. L'éternité, c'est le monde de Dieu. Et l'éternité, c'est pas que pour après. Il y a déjà quelque chose de maintenant qui se joue, de l'éternité qui se joue maintenant. Elle englobe notre temps, en quelque sorte. Mais elle est plus que notre temps. Mais on reviendra un petit peu sur cette question de l'éternité. Je voudrais quand même dire un mot du jugement. Donc, vous voyez, là, on a parlé de la venue, on dit Jésus l'annonce. Sous quel mode ça va se produire ? Eh ben, on peut trouver un peu tout et son contraire dans les évangiles. En tout cas, la seule chose devant laquelle je vous mets en garde, doute tout le paragraphe sur les représentations. Ne prenons pas ces représentations au pied de la lettre. Elles sont tributaires d'une mentalité, d'une culture. Jésus était formé dans cette culture-là, imprégné du langage apocalyptique, il l'utilise. Il n'utilise pas que ça. On peut trouver d'autres images qui contrebalancent. Ce qui est certain, c'est que c'est l'annonce du règne de Dieu et que c'est l'accomplissement des promesses. Mais que c'est un vrai changement et que c'est un acte de Dieu, que c'est pas quelque chose, le déploiement de la logique interne du monde. C'est quelque chose, c'est un acte de Dieu. C'est un acte de Dieu. Ça sera l'accomplissement de son dessein pour nous, l'accomplissement de son projet pour nous. Et ce qu'on dit aussi, c'est donc que ce jour du retour du Seigneur, qu'on avait déjà dans l'Ancien Testament, mais évidemment sans le Christ, ce serait un jour où Dieu triompherait de tous ses ennemis, qu'avec Jésus on appelle le jour du Seigneur et où on nous dit que c'est Jésus lui-même qui viendra. Voilà. Il est assorti, il est intimement lié à un jugement. Le jour du Seigneur, c'est aussi le jour du jugement. Le Christ reviendra dans la gloire, dit-on dans le Credo, pour juger les vivants et les morts. Donc, justice sera rendue par Dieu. Autrement dit, tout sera manifesté dans la vérité. La vérité éclatera. Ça sera un jour de salut. Et en même temps, ça suscite quelques craintes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédications, d'ailleurs, qui ont fait de ce jour un jour redoutable pour les pécheurs et donc pour nous. Et c'est là où je voudrais faire réfléchir à ce que c'est qu'un jugement et peut-être réhabiliter l'idée de jugement. C'est quoi le but d'un jugement ? C'est quoi le but d'un jugement ?
Faire justice.
Oui. Et faire justice, c'est quoi ? C'est quoi le but de faire justice ?
C'est reconnaître,
rétablir la vérité ?
Oui, c'est ça, voilà.
Faire justice, c'est rétablir la vérité ? Et rétablir la justice ? C'est bien pour ça que souvent, quand on est pris soi-même ou quand on est dans un monde où on voit des choses très dures, on voit bien qu'on attend avec impatience qu'un jugement soit rendu en général. On aspire à ce qu'un jugement soit rendu. Parce que le jugement, c'est ça qui va permettre de clarifier les choses. Les choses sont tellement confuses parfois. Ben, c'est ça qui va pouvoir permettre de faire émerger la vérité, et c'est ça qui va nous permettre de guérir du passé. C'est parce qu'on est dans une opération de vérité. On voit bien qu'il y a des actes qui ne peuvent pas rester impunis, qu'il faut que ça soit sanctionné et que c'est indispensable pour la vie à venir. Et notre histoire, on sait très bien que tout n'est pas clair. Il y a du bien, il y a du mal. Je parle de notre histoire personnelle, mais une histoire collective. Il y a du bien, il y a du mal, c'est mélangé. Les causes s'interpénètrent. Très difficile de faire la vérité. Et donc, de se dire qu'il y aura un jugement porté sur ce monde et sur notre histoire, en réalité, c'est une bonne nouvelle. Et dans la Bible, ça apparaît souvent comme tel. Dieu sauvera définitivement ce monde par un jugement qui va trancher. Un jugement, ça tranche. Et tranchant, il va libérer ce qui est juste et vrai. Le jugement va libérer ce qui est juste et vrai. Ça signifie un jugement que l'injustice du monde n'aura pas le dernier mot. Et ça signifie aussi qu'elle ne sera pas tout simplement effacée, oubliée par une absolution générale. Il n'y aura pas d'absolution générale sans jugement. Il y a une instance d'appel qui va sauvegarder la justice.
Oui, ça me fait penser au passage de la Samaritaine, quand Jésus dit la vérité, enfin fait apparaître la vérité, qu'elle-même le reconnaît, enfin, ou c'est elle qui le reconnaît, et Jésus dit tu dis bien parce que tu n'as pas de mari, mais tu en as eu cinq, enfin je ne sais plus.
Voilà, et elle dit, hein, quand elle va revoir les Samaritains, son village, elle dit, cet homme a vu la vérité, on m'a dit toute la vérité sur ma vie.
Ouais.
Et cette vérité, elle est libératrice en fait. Mais est-ce que vous avez réfléchi à, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un amour sans justice? La justice, c'est presque la condition. C'est la condition fondamentale de l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans justice. Et l'amour véritable, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de justice. C'est peut-être une justice qui déborde notre justice humaine. Mais il n'y a pas d'amour sans justice. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle que sur cette histoire soit porté un jugement et que ce qui est vrai, bon, juste dans cette histoire puisse être reconnu, libéré et prennent une valeur éternelle, je dirais. Et puis, rappelons-nous aussi, ce qui devrait nous remplir d'espérance, c'est à qui appartient le jugement? À Dieu.
Oui.
Et quel est, dans l'histoire du salut, comment est-ce qu'il se révèle? Il se révèle comme un Dieu d'amour. Donc, on pourrait dire que, pour reprendre tous les parallèles qu'on a fait avec les créations et même que David venait de refaire, au terme de l'histoire, ça sera comme la création, une séparation salutaire. La création, elle fait sortir du chaos un monde organisé, elle introduit de l'ordre, elle fait surgir la lumière des ténèbres, un monde qui est vivable. Et ben, au terme, ça sera un acte de séparation qui viendra lui aussi faire surgir un monde et une histoire qui soit réconciliée, accomplie à partir d'un certain chaos qui est ce qu'on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup de belles choses, mais aussi il y a beaucoup de choses ambiguës. Et donc, il va faire surgir la vérité, la justice, libérés de tout ce qui leur est contraire. Donc, à la fois, il faut prendre la chose au sérieux, il y aura jugement, et en même temps, il ne faut pas vivre dans l'angoisse. D'autant plus que ce jugement, non seulement on dit c'est le jugement de Dieu, mais dans le credo, on dit quoi? Qui juge dans le credo?
C'est Dieu?
Non. Pas tout à fait.
Ah. C'est le Père, mais je ne suis pas sûre.
Non, il jugera évidemment Dieu. C'est nous. Enfin,
c'est le Christ. Quand on dit il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, c'est qui?
C'est le Christ.
C'est le Christ.
C'est le Christ. Donc ce qu'on nous dit, c'est que celui qui viendra nous juger, c'est le Christ.
J'ai une question, Aude. C'est Clarisse. Par rapport au jugement dernier, est-ce qu'on peut dire que le jugement dernier, c'est une forme de pardon de Dieu sur notre vie? De pardon de Dieu sur notre vie? Forme de miséricorde de Dieu? Enfin, je sais pas.
Alors, la miséricorde et la justice, ça va ensemble. C'est comme amour et justice. Ça va aller ensemble. Mais il y a les deux. Il y aura la miséricorde et il y aura la justice.
D'accord.
C'est une justice dans l'amour. Voilà. C'est un amour qui n'est pas sans justice et c'est une justice dans l'amour. C'est là où on ne peut pas la transposer, où on ne peut pas transposer complètement notre justice humaine. Qui va être une justice, voilà. de rétribution ou de donnant-donnant ou de... Non, tout simplement dans les jugements qu'on rend, qui va essayer de faire le plus justice. Mais là, c'est une justice dans l'amour.
D'accord.
Okay. Je vous donne un exemple de Jean. Donc, moi, je vous parle du credo. C'est le fils qui va venir nous juger. Mais Jean, en Jean 5, le père ne juge personne. Il a remis tout jugement au fils. Un peu plus loin, il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le fils de l'homme. Si on réfléchit à ça, si on va jusqu'au bout de dire ça, ça veut dire que notre juge, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un étranger. C'est le Christ. C'est un des nôtres. C'est notre frère. C'est celui qui a vécu notre condition du dedans. C'est celui qui nous connaît mieux que personne puisqu'il l'a vécu. Et je vais encore un pas plus loin. Ça veut dire que celui qui nous juge, ce n'est pas simplement notre compagnon de route. C'est aussi celui qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Et là, on retrouve Romains 8, qu'on a encore lu, qu'on a lu, mais vous voyez petit à petit, on revient sur ce texte, mais vous voyez comme il était riche. Voilà ce que ça dit. Je vous relis le dernier paragraphe de Romains 8 qu'on a lu l'autre jour. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Vous voyez ce que dit Paul, c'est quand même extrêmement fort. Qui est-ce qui condamnera? C'est le Christ Jésus qui condamnera? Paul dit, Jésus qui nous juge, c'est aussi notre sauveur. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. Et c'est celui qui intercède pour nous. Donc, vous voyez, l'article du credo, quand on, dans notre conscience, souvent, il a pris une forme assez terrible. On va dire, le retour de Jésus, il est associé au jugement. Et ça va être un jour de colère, ça va être un jour terrible. En fait, si on réfléchit à cette idée de jugement, si on réfléchit à celui qui est notre juge, l'idée du retour du Christ, l'idée que le règne de Dieu soit sur terre, celui qu'on appelle à chaque fois qu'on dit le Notre Père, c'est une perspective qui est heureuse. Et dans le milieu où est né le symbole des apôtres, le credo, dire que Jésus reviendrait pour juger les vivants et les morts, vous pensez que c'était une mauvaise nouvelle? Pour les compagnons de Jésus, c'était pas du tout, c'était pas faire passer au second plan l'espérance. C'était le Jésus qu'ils avaient connu. La lettre de Paul, elle est très, très, aux Romains, elle est très éloquente de ce point de vue-là. Alors, si on a le temps, oui. Je vais vous lire, puis après, vous pourrez poser vos questions. Je suis tombée, mais complètement par hasard, ces derniers jours, une lettre de Benoît XVI. Alors, la lettre de Paul, là, pour le coup, c'est grosse autorité, hein. C'est l'Évangile, c'est le Nouveau Testament. Mais je vais vous lire une lettre de Benoît XVI qu'il a écrite en février, quelques mois avant sa mort. Pour vous rappeler le contexte, on était en pleine période de crise des abus et il avait été attaqué là-dessus aussi. Voilà ce qu'il écrit, c'est une lettre que j'ai trouvée, qui est parue dans La Croix. Il est mort 6 ou 7 mois plus tard. Et bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux, parce que je crois fermement que le Seigneur n'est pas seulement le juge juste, mais en même temps l'ami et le frère, qui a déjà souffert lui-même mes manquements, et qui en tant que juge est en même temps mon avocat. À l'approche de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus, l'amitié avec le juge de ma vie, et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos, me revient sans cesse à l'esprit ce que Jean rapporte au début de l'Apocalypse. Il voit le Fils de l'homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais lui, posant sur lui sa main droite, lui dit « Ne crains pas, c'est moi. » Ne crains pas, parce que notre juge, c'est le Christ. Ouais, et je crois que là, on touche vraiment du doigt pourquoi, pour nous, chrétiens, le jugement est accompagné d'une telle espérance. Alors, vous me direz, évidemment, il y a la scène de Matthieu 25, la parabole qu'on a évoquée tout à l'heure, la séparation des brebis avec les boucs. On ne va pas le lire, je vous l'ai mis dans les documents. Ça, c'est la scène du jugement dernier, évidemment, qui a donné tous ces tympans qu'on voit dans les églises avec le juge qui vient séparer, les damnés qui vont en enfer, la file des élus qui monte au paradis. Voilà. Donc, c'est vrai que cette scène, elle a vraiment eu un retentissement énorme. Attendez, tout d'un coup, j'ai... Je vous fais remarquer juste 2-3 petits points parce qu'on ne va pas trop s'attarder. D'abord, je vous fais remarquer que ce jugement dans la parabole, c'est une séparation. Hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une séparation. Une séparation salutaire. Il va y avoir ceux qui vont être les bénis, qui vont aller avec le Père, et les autres qui vont aller à la GN. On est d'accord, deuxième chose, que ce sont des représentations. Donc, ce n'est pas à prendre à la lettre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça veut dire d'abord que l'importance de nos actes, même parfois si on a l'impression que c'est des petits actes qui restent cachés, et même si nous-mêmes on n'en a pas tellement pris conscience, ça veut dire l'importance de tous ces petits actes à l'égard du prochain. Ça signifie que le Christ est présent dans le prochain, à commencer par les plus petits. Et puis simplement, si on le voit vraiment comme une scène de jugement, c'est une parole qui nous concerne tous. Et quelle est la question qu'on nous pose à travers cette parabole. Je dis une parabole, c'est une histoire qui est destinée à nous faire réfléchir. C'est quoi la question? Eh bien, est-ce que tu prends au sérieux le poids de tes actions ici-bas? Et t'es où dans cette scène? T'es celui qui a vêtu, nourri, accueilli, visité, donné à boire? Ou est-ce que t'es celui qui a laissé passer? Et vous voyez, dans cette scène, Jésus, vraiment, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie tout le monde à l'exercice de sa liberté. Et il nous dit, personne ne sera dispensé de rendre compte de la conduite de sa vie. Jugement. Ça, je pense que cette scène-là, elle est à méditer par rapport à toutes les fois où on se dit, où on tient la miséricorde sans la justice. C'est la question de Clarisse. L'amour sans la justice. Eh ben non, Matthieu 25, il pose un jugement. Et il dit, il ne suffira pas de dire, on voit ça en Matthieu 7, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, l'idée qu'il y a un jugement, ça veut dire qu'on ne se verra pas imposer notre destinée sans égard aux options qu'on a prises dans notre vie, sans égard à ce qu'on a fait de sa vie. Et ça, ce paradoxe, Clarisse, de l'amour et de la justice, on pourrait dire autrement, de la grâce et de la liberté, c'est quelque chose, on a du mal à tenir les deux ensemble, et pourtant, il faut les tenir ensemble. Mmh. Regardez dans votre vie, vous voyez que ça marche comme ça. Vous voyez bien que dans notre vie, d'un côté, on peut très bien avoir confiance en l'amour de Dieu. Mmh. C'est-à-dire que cet amour, il est indéfectible et qu'on peut tout miser sur lui. Et en même temps, on sait très bien que notre vie n'est pas un jeu et qu'on doit la prendre à la légère. Et on sait très bien aussi qu'on devra répondre de notre vie. Et bien, c'est les deux à la fois. Alors, le fameux Balthazar dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, écoutez cette manière qu'il a de dire les choses que je trouve assez belle. Il dit, quand tu souffres devant ton péché, quand tu crains le jugement, là, tu touches du doigt la vérité et tu touches le jugement. Et puis, quand tu tempères la crainte, quand tu tempères la douleur en contemplant la bonté de Dieu et que tu espères obtenir son pardon, là, qu'est-ce que tu touches ? Qui touche sa miséricorde. Et on est tout le temps pris entre les deux.
Ouais.
Et il faut tenir les deux. Il faut tenir les deux. Voilà. Alors, je vais passer ça.
Vous pourriez nous redonner les références du texte de Benoît XVI, qui est assez réconfortant.
Oui. Hein. Oui. Regardez, attendez, je vous renverrai le lien.
D'accord. Et puis, je vous pose la question qui a peut-être été faite au début, j'étais pas là, il n'y avait pas de documents cette année pour le cours sur le site.
Si.
J'en ai eu aucun, moi.
Si, j'ai envoyé les documents. Il y a un lexique, il y a le plan détaillé, il y a le plan général, il y a Matthieu 25. Redemandez-les à Hélène si vous ne les avez pas eu. C'est peut-être dans vos spams, je ne sais pas. Mais sinon, vous les trouvez sur le site, vous n'avez même pas besoin de demander à Hélène.
Non, mais je suis allée sur le site, moi, www.lecif. Et le dernier cours qui y est, c'est celui de la semaine dernière.
Bah parce qu'elle vous les a envoyées, alors elle ne les a peut-être pas mis sur le site encore, elle va peut-être les mettre après d'un coup. Je vous propose de terminer avec deux tableaux. Parce que là, vous voyez justement, alors on a beaucoup parlé de représentation littéraire. Mais vous voyez, c'est amusant, Catherine. Parce que le texte qui vous a plu, c'est le texte de Benoît XVI. Mais en fait, le texte de Benoît XVI, il ne vient que confirmer tout ce qu'on dit. Sur quoi elle est fondée, l'espérance de Benoît? Elle est fondée par tout ce qu'on a dit, par tout ce qui sait de la Bible, par tout ce qui connaît de Jésus, par toute cette amitié dans laquelle il est rentré avec Jésus. Mais comment est-ce qu'il s'est laissé rejoindre par ça? Ben, à travers l'écriture, à travers la tradition de l'Église, à travers, ça vient pas de nulle part. C'est pas une intuition personnelle.
Non, mais il parle de sa fin à lui. Il parle et pas
voilà,
de la fin.
Voilà. Mais c'est nourri, cette conviction qui est sa fin, sa vision personnelle des choses. Elle est nourrie de tout ce qu'il a découvert de Jésus. Alors lui, c'était un grand intellectuel, mais de tout ce qu'il a, de tout ce qui a nourri sa pensée. Et il l'a nourri de quoi? Il l'a nourri de la lecture de la Bible, de sa fréquentation de Jésus, de son amitié avec Jésus, de, voilà. Mais c'est l'aboutissement, en fait, de, vous voyez, qui est extrêmement existentiel et on sent que c'est une conviction profonde de quelque chose qui a été nourri par ailleurs. Mais cette lettre, en soi, elle n'a pas grande valeur. Ce n'est que vient de lui. Elle n'a pas d'autorité.
Elle
nous touche. Mais voilà, elle est réconfortante. Elle nous touche. Mais tout ce qu'on dit de Paul, tout ce qu'on dit de la tradition de l'Église, de tout ce qu'on dit du credo, de tout ce qu'enseigne la tradition de l'Église, ça a beaucoup plus de poids, en fait. Vous voyez? Sauf que là, il le traduit.
Dans cette lettre, il parle de sa fin à lui. Il ne parle pas du tout de la fin, entre guillemets, du monde. Fin de la fin.
Ah, t'as raison, je devrais le mettre dans le cours la prochaine fois. C'est vrai.
Ah non, 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 non.
Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, deux ça, c'est le vous savez que le portail de Notre-Dame de Paris, c'est un jugement aussi. Hein. Vous avez une très belle présentation sur YouTube. Deux tableaux. Le jugement dernier de l'hôtel Dieu de Beaune, donc van der Weyden, 15e siècle. Les deux tableaux sont du 15e siècle et vous allez voir qu'ils ont pourtant deux visées complètement différentes. Je vais vite parce qu'il est 59. Il était dans la chambre des pauvres, là où il y avait tous les lits des malades, et au fond, il y avait le tableau au-dessus de l'hôtel, et qu'on ouvrait en semaine et qu'on ouvrait pour les fêtes, le dimanche et pour les fêtes. Au centre, le Christ ressuscité. Et là, c'est vraiment la venue du Christ. Le Christ reviendra. Vous voyez qu'il vient dans une lumière dorée qui pénètre tout. Et donc, le Christ arrive, c'est le Christ ressuscité qui vient. Ça disait quoi, tous ces malades? Que la vie serait plus forte que la mort et que la mort n'aurait pas le dernier mot. Une épée à sa gauche. L'épée, qui est le signe du jugement. Et les phrases de Matthieu. « Venez les bénis de mon Père » ou au contraire « Allez loin de moi, maudit au feu éternel ». Qui rappelle une chose, c'est que le critère sur lequel sera fait le jugement, ce sera l'amour. Et puis on voit que ce juge qui a traversé la mort, le juge, celui qui va nous juger, c'est aussi celui qui a traversé la mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous, parce qu'on voit bien précisément les cicatrices. Et dans ses mains. Donc ce juge, c'est celui qui est allé jusqu'au bout du don. La main gauche, celle-ci. C'est pas une main qui condamne. À la limite, c'est une main qui laisse s'en aller. Qui laisse s'en aller ceux qui se détournent de lui. C'est pas une main qui retient. Et un commentaire possible, c'est les pieds. Un pied devant et un pied qui est très tendu, très crispé. Comme si, ça c'est un commentaire, ça engage que le commentaire, mais je trouve que c'est pas mal. Comme si l'émotion du Christ qu'il pouvait ressentir à la vue de ces damnés qui s'éloignent de lui, s'était réfugié dans la tension de ce pied. L'enfer n'est pas décrit ici. On le voit un petit peu ici, hein, comme une scène secondaire du tableau. Et là, on voit les élus qui montent au ciel. Mais ça a une place un petit peu secondaire. L'essentiel, c'est le juge de gloire qui revient. Et ça nous est pas tellement décrit ce qui se passe après. Ce qui compte, c'est que c'est le juge qui revient. Je vous en montre un autre. Là, c'est Bosch. On est 50 ans après. Jérôme Bosch. Le triptyque du jugement dernier. Il est à Vienne. Et là, on a exactement le contrepoint de van der Weyden. C'est-à-dire que, à quoi est donnée la place principale? À la fin du monde, c'est un panorama effroyable, un chaos, la Terre dans les soubresauts de son agonie. Ça témoigne vraiment de ce que pouvait dire cette époque, d'une angoisse terrible du péché, de terreur à l'idée d'une fin du monde. C'était à une époque où il y avait des pestes, des épidémies, des guerres. On retrouvait tous les signes avant-coureurs apocalyptiques. Et il y avait des prédicateurs pour dire la fin du monde, elle est imminente. On y croyait, il y avait des prédications pour ça. Et le jugement dernier et le ciel, c'est là, ça a une place. Pour le coup, c'est ça qui a une place secondaire. Très peu d'élus. Voilà. Et à droite, là, tous les damnés qui sont précipités dans des tourments épouvantables. Alors là, il y a un raffinement d'imagination qui est absolument extraordinaire. Alors, vous voyez, on est vraiment sur deux lignes. Et ces deux lignes, elles illustrent deux phrases de la Bible qui sont en contraste, qu'on a rencontrées. Le dernier mot de l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ça, c'est la formule qui clôt la première lettre de Corinthiens de Paul et qui clôt l'Apocalypse. Et dans cette invocation-là, viens Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les premiers chrétiens, ils interprètent le retour du Christ comme vraiment un événement chargé d'espérance et qu'ils appellent, viens, et un jour de joie. Elle exprime leur attente d'un retour qui, pour eux, est vraiment l'heure de l'accomplissement définitif. Ça, c'est van der Weyden. Et puis là, on a le jour de colère qu'on a retrouvé aussi hein, dans le Requiem de Forêt, dans certaines descriptions apocalyptiques du Nouveau Testament. Et ça, c'est l'expression qui va dominer au Moyen-Âge. Et là, le retour du Christ, il est plus que quoi? Il est plus que le jour du jugement, le jour où on rend des comptes. Alors, pourquoi je vous montre les deux tableaux? Parce que Bosch, il n'a pas complètement tort. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et c'est là où c'est intéressant, il nous dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et de ce point de vue-là, il a raison. Et ta vie aura du poids. Et le problème de Bosch, c'est quoi? Eh ben, c'est que c'est un tableau qui est complètement privé d'espérance et de joie. Et cette espérance, ben justement, j'ai commencé par ça, c'est vraiment le propre du christianisme. Voilà. Donc, je conclue. Au dernier jour, la justice sera rendue. C'est une justice qui fera la vérité. Et qui assignera à tout ce qui est juste, beau, vrai, sa valeur éternelle. Et il ne faut pas oublier une chose, que c'est une justice de Dieu et que c'est une justice dans l'amour. Alors, j'avais commencé à Isaïe, j'ai terminé avec une dernière phrase de Saint Jean. Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne faut pas oublier ça quand on parle de la justice de Dieu. Voilà, moi j'ai terminé pour là, un peu en retard, je suis vraiment désolée. Et on a, si jamais il y en a qui... veulent quelques... On en reparle un petit peu.
Le ciel que vous avez mentionné, donc cette espèce de refuge des âmes, est-ce que c'est le même ciel que Dieu créa le ciel et la terre du début de la Bible?
Non, non. Dieu créa le ciel et la terre, c'est pour dire que Dieu va créer l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est sa création. Le ciel, c'est vraiment une représentation pour dire, l'équivalent du ciel, c'est pour dire la vie éternelle. Mais on reviendra sur ce mot de ciel parce que j'expliquerai cette représentation, d'où elle vient et ce qu'elle veut dire. Le ciel, c'est pour dire la vie éternelle par opposition à l'enfer qui serait la perdition éternelle. La damnation éternelle.
Bon, ben merci.
Bon, ben écoutez, si quelqu'un a une question, bien volontiers, et sinon, surtout, voilà. N'hésitez pas à décrocher.
Dernier cours demain, de la semaine prochaine alors.
La semaine prochaine, ce sera le dernier cours donc.
La semaine prochaine. Et merci beaucoup pour.
Bien. Et ben
merci
alors.
Beaucoup.
Faites pas de cauchemar.
Merci beaucoup.
Merci pour cette semaine à tous.
Voilà. Non.
Au revoir.
Bonne semaine. Au revoir tout le monde.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.